I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice.
Est-ce que j'ai ouvert le bon micro? Ouais, ça semble ok. Comment ça va? Oh, comment ça? Mais c'est pas possible, Sugar Frog a banni Alex le sympathique. Bon, Sugar, je connais ton jugement parfait, mais comment ce pseudo, ce magnifique pseudo, peut avoir émis à quelque chose de problématique? Alex le sympathique. Ah, je t'ai. Premier message sur la chaîne, mais attendez, le pseudo est magnifique, Alex le sympathique, c'était forcément un message d'amour. Qu'est-ce que t'as écrit, Alex le sympathique? Bande de fils de pute. Ah ouais, c'est pas terrible, ouais. Ah ouais, c'est pas foufou, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Mais comment cette personne peut-elle s'appeler Alex le sympathique? Alors qu'en fait, ah ouais, mais c'est un faux pseudo, c'est comme le MMR sur Valo, t'as un pseudo caché. Et son pseudo caché, c'est Alex le gros con. C'est comme le MMR en fait. Sur Valo, vous avez un MMR caché, en fait, c'est votre vrai niveau, quoi. Voilà. Et toi, t'as un pseudo affiché, puis t'as un pseudo MMR. Alex le gros con. Bien joué, Sugar. Ça va, les amis? J'ai connu un gentil au lycée qui était un vrai. Hein, quoi? Ok, d'accord. Attendez, j'en ai un autre, mais il est pour moi celui-là. Ah, You Go Unheim. Il est pour moi celui-là. Laissez-le moi celui-là. Bon, les modérateurs l'avaient déjà classé utilisateur suspect. Donc du coup, ça a attiré mon attention et je suis allé voir son historique. Samuel Etienne, premier message de la matinée, abreuve-nous de ta propagande mainstream, on adore. Bon, ça m'a régalé, bon, évidemment. Et comme je vois que les modos trouvaient déjà ce profil un peu problématique, je suis allé voir. Alors ça commande pas beaucoup, hein, il est pas là souvent, mais on se régale quand même. Vous voulez un petit florilège? Vous voulez un petit best-of? C'est histoire de se mettre de bonne humeur le matin? Vous voulez? J'ai les historiques sous les yeux là. Allez, ok, c'est parti. Premier message sur la chaîne, c'était le 10 avril 2022. Ça va être rapide, il n'y a pas beaucoup de messages. Hein. Bonjour, aujourd'hui, on va mettre Marine à 30% et faire pleurer les socialistes et les macronistes MDR. Ça, c'est son premier message. Ok. Le deuxième, c'est: vous êtes prêts pour Marine? J'aime boire les larmes des socialistes. 9h35, le niveau s'élève. Marine est la plus belle. Ok, d'accord. Ah, tu vas convaincre des gens, là. Donc là. Le 15 avril, lol, n'importe quoi, c'est une de l'humanité. Oui, tu m'étonnes, tu ne dois pas lire l'UMA beaucoup. Merci à Drogue Gamer. Ah, je vais remercier les subs de ce matin, quoi. Référendum d'initiative citoyenne, c'est ce qui fera gagner Marine. C'est un peu une obsession, hein, tu ne parles que de ça. Hein. Ok, d'accord. Ok. La France va mourir, merci les demeurés qui ont voté Macron. Toujours dans la nuance, hein. Toujours dans la finesse, hein. Ouais. Mais alors, mon Hugenheim. Mais ici, il y a des électeurs RN, hein, il y a des gens qui votent pour l'extrême droite. C'est, en tant que tel, moi, j'aime bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais après, il y a des manières de dire les choses. C'est plus ou moins intéressant, quoi. Marine, elle est belle. Tu vois, c'est pas un argument forcément qui peut convaincre. Tu vois, je veux dire, le caractère physique des hommes et des femmes politiques, c'est pas très important, en vrai. Le socialisme est une maladie. Ok. Ok. Changement de la ligne éditoriale. Le 7 août 2023. Attention, un virage, un virage. Jordan Bardella président. Et pourtant, je crois que c'était avant la condamnation judiciaire de Marine Le Pen. Donc nous avons un petit virage là. C'est intéressant. Ok. Alors. Non, attendez, 14 août 2023, le réchauffement climatique, c'est une petite collection que... Donc le réchauffement climatique, bon, les rapports du GIEC, tout ça. Non, on a Hugo qui nous écrit le 14 août. Il y a des cycles de climat, hein, c'est normal, ça va passer, pas de raison de s'inquiéter. Depuis le moment que je, depuis le temps que je vous le dis, qu'il faut arrêter de s'inquiéter là pour l'actualité, tout ça, là, de stresser. Vous inquiétez pas, les gars, le réchauffement climatique, les changements climatiques, tout ça et tout. Il n'y a rien à faire, ça va passer. Il y en a d'autres comme ça, ouais. Ok. Tu regardes s'il y a un changement de la ligne éditoriale après. Ah, 4 septembre 2024. Non, il n'y a pas de changement de l'éditorial. Bon, alors, pas de plan après avoir fait barrage au RN. Quel dommage, lol. Donc, ça, non, il n'y a pas de changement. Après, ça parle des castors, les castors, les barrages. Merci les castors pour le barrage. Bon, tout le monde a la ref. Alors, ah, attendez, attendez. On s'intéresse à l'actualité internationale. C'est le 11 novembre. Alors, ça arrive à dormir depuis que Trump est élu, MDR. Voilà. Voilà, le 21 janvier 2025, on se rapproche. Ça va ridiculiser les politiques actuelles en Europe, laissant la place aux partis qui veulent vraiment changer les choses. On a une petite idée des partis dont tu parles, hein. Voilà. Et tout ça, en fait. Bon, bah, et pourquoi je me suis infligé ça? Tout simplement parce qu'en fait, le premier message de la matinée de Guggenheim, c'est Samuel Etienne est revenu de propagande mainstream, on adore. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas. Il y a peu de chances que ici je te dise les gars, votez Marine Le Pen est belle, quoi. Je pense que c'est vrai que pour le coup, je suis un peu mainstream sur ce coup-là, quoi. Bon, la question, comme dit Flop, c'est pourquoi il s'inflige ça depuis 2022? Ouais. Ouais. Mais Je sais pas s'il est parti ou s'il est toujours là. Notre ami Hugo. Tu voulais ajouter quelque chose? Vous me dites, hein, si... Vous me dites s'il revient, parce que du coup, c'est pour ma collègue. Ah, il m'a répondu. Ah, j'ai pas vu. Alors, attends, attends, attends. Alors, il est... Je l'ai pas, je l'ai perdu, là. Non, vous êtes trop nombreux, vous êtes trop nombreux. Ah! Attends, attends. J'aime troller de temps en temps, et je pense que le royalisme est la seule chose qui sauvera la France. Bah, attends. Bah, moi, je peux pas théo ce gars, il est en pleine évolution. Hugo, je peux pas te bannir de cette communauté. On part de Marine Le Pen, inflexion Jordan Bardella, et maintenant tu nous parles de royalisme. Et en plus, tu te fâches même pas, alors que je me suis un peu moqué de tes commentaires. Moi, je trouve que le mec a de l'humour, du second degré, une capacité d'évolution. Écoute, bon, en plus, bon, même si je suis pas tout à fait d'accord avec tes opinions, même pas du tout, dans ton historique, je ne t'ai jamais vu insulter réellement ni moi ni un viewer. Bon, écoute, donc exutoire, on a donné sa chance au Royce pendant 2000 ans, ils ont échoué. En vrai, tu vois, voilà. Je t'écoute depuis 2022, oui. Après, niveau politique, j'ai des opinions particulières peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup comme moi. Bah oui, on sait, on a vu aux élections. Écoutez, alors, certains vont être choqués, mais moi, je veux pas bannir Hugo Hoheneim. C'est-à-dire que c'est pas parce que Hugo ne pense pas comme moi que je vais le bannir. Moi, je pense pas que cette chaîne, c'est un endroit où on doit être tous d'accord. Hein, c'est pas... Non, 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 non. Pas d'insulte, hein. Non, 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 non. Voilà, moi, bon, c'est pas mes valeurs, c'est pas mes opinions. Je suis assez transparent là-dessus, mais c'est même le jeu de la vie qui lui a offert un abonnement. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ta chaîne, ton choix. Bah là, c'est pas une chaîne de propagande, exactement, si t'as Rogel. Et ça peut choquer certains, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ici, c'est pas une chaîne communautaire, c'est pas une chaîne où on exclut les gens, même si leurs pensées me choquent, même si je suis absolument pas d'accord avec eux, même si politiquement j'ai envie de les combattre. Je pense que exclure les gens du cercle du débat, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Tant qu'il n'y a pas comportement problématique, propos discriminants. Par exemple, dans l'historique de notre ami, là, il n'y a pas de propos racistes, par exemple, ou discriminants. Ce qui, pour moi, est une ligne rouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et si je veux. Puisque moi, c'est un peu l'idée sous-jacente de ça. Moi, je pense que l'extrême droite n'est pas une solution pour la France, par exemple. Je le cache pas. Hein? Bah, je préfère avoir l'opportunité de discuter avec des gens qui potentiellement votent pour ces partis-là, pour essayer de les faire douter un peu, quoi. Voilà. Donc, je préfère cet échange-là, quoi. Hugo, tu passes quand même de Marine Le Pen à Bardella au royalisme. Donc, ça se trouve, dans 6 mois, tu votes LFI, quoi. Tu vois? Donc, voilà. Bon, comment ça va, vous? Alors, c'est une pluie de subs ce matin. Il y a un chemin, mais certains font le chemin. Monsieur Biganon, on va pas faire la matinée sur ce bout. Ah, mais attends, 14 minutes d'intro. L'intro, c'est 30 minutes, 40 minutes ici. J'ai le temps ce matin, donc je fais ce que je veux. Hein. Voilà. Moule Beats. Merci à vous. D'abord, je vais remercier cette pluie de sub de fou. Asema pour le 14e mois. Moule Beats pour le 13e mois. Le jeu de la vie. Roival, qui rigole, qui offre 5 abonnements à la communauté. Bubu Seb. Vive Samuel. Voilà, ça, c'est un pseudo comme on les aime. Demon Walker. Hard Rock Gamer, 21 mois. Qui vote, lui, Samuel, en 2027. Puisque c'est le projet ici, bien sûr, je vous le rappelle. Valsum 75 pour le 40e mois. 40 mois?
Wow.
Brandy Hot Dog, 40 mois. 40 mois? C'est très régulier, Dorian, tu sais. J'essaye tous les jours. Ou Dorian, les journaux. Nico 76, merci pour le soutien. Turtle Master, le maître des tortues, merci pour le 2e mois. Vous êtes incroyable. Super. Moule Beats. Ah oui, j'essaie de mettre l'accent. Oui, parce qu'il y a dans la communauté, on a Moule Beat, modérateur, et il y a Moule Beat. Et c'est pas les mêmes. Donc je mets l'accent. Je t'ai envoyé un message sur Discord. Est-ce que tu penses. Je vais pas souvent sur Discord. Là, quelqu'un m'a envoyé un message urgent, très important, mais capital, le genre de message que tu reçois pas souvent. Sur Discord, il me l'a envoyé il y a. je sais pas, une semaine, 10 jours, quoi. Et j'en ai eu connaissance, genre hier ou avant-hier, quoi. Donc, c'est pas le meilleur moyen de me contacter, mais j'irai voir. Bruno Bertier, oui, toujours. Toujours, toujours. J'ai toujours ça dans un coin de ma tête, Bruno. Salut Juju Gatota, merci pour le message. Merci Névive pour le 39e mois. Allez, je vous lis, c'est mon plaisir. Après, on peut voter ce qu'on veut, me dit Mustique. L'interdiction présidentielle de Marine Le Pen, c'est une atteinte à la liberté démocratique des Français. Ah bah non, mais fallait pas piocher dans l'argent public européen pour financer les dépenses du parti. Là, c'est une décision de justice, ça, Juno Reactor. Pour le coup, non. Pour le coup, non. Là, c'est une... Non, pour le coup, non. C'est pas une décision politique, c'est une décision de justice. Fallait pas taper dans la caisse de l'argent public européen. Ah bah non, ça se fait pas, en fait. Tu le sais, en plus. Félicitations, Léaxum, qui vient d'être admis dans son école et qui cherche une alternance. Ton message me fait plaisir, Scarly. J'adore. Voilà, c'est mon fils qui m'a initié. Coucou à lui. Il rentre en école de journalisme en septembre sur Paris. Alors dis-lui, dites-lui, je sais pas si on tutoie, si on se voit, que c'est un des plus beaux métiers du monde en vrai. Bien sûr, Dracoche, qu'il y a un Discord pour l'exclamation Discord. Et que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais qu'il faut pas, il faut vraiment qu'il s'accroche au début. C'est-à-dire que c'est très précaire, quoi. C'est compliqué de trouver les places, les premiers stages, les premières piges, les premiers CDD, les premiers emplois. C'est un métier qui a toujours attiré plus de gens qu'il ne pouvait absorber, le journalisme. Et donc, moi, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Hein. C'est un pur métier. Mais voilà, les premières années sont un peu difficiles. Il faut s'accrocher. Il y a vraiment un tamis, une sélection à la motivation au début. Dis bien ça à ton fils, quoi. Ouais, j'ai vu l'histoire du palais de la découverte. Je suis ça, Limon. Je pense que je vous lirai un papier dans les prochains jours. Ça, le daron stream, j'ai pas vu l'histoire de la TSEM. De la TSEM, je l'ai pas vu. Je vous lis. Hein. Est-ce qu'il existe une pétition pour interdire de slow en deathmatch? Beadle, je ne sais pas, mais on devrait lancer cette pétition, je suis d'accord. Moi d'ailleurs, un jour, moi j'ai un projet de pétition, moi. Sam, t'as un mot à dire pour les gens qui passent le bac aujourd'hui? On leur envoie la force, Clem Vador, on leur envoie. Clem Vador? J'ai envie de dire que la force soit avec toi. Pour le bac. Clem Vador, vous l'avez? Qu'est-ce que je lisais? Oui. Moi aussi j'ai un projet de pétition. Je vous en parlerai un jour. Merci Dadine pour les bits. Ah non, mais. Ah oui, le samplay, c'est une fois par semaine. Dadine, mais des streams de jeux vidéo, j'en fais quasiment tous les jours. Et tu t'es pas français? Tu écris aussi bien que ça? Bah attends, mais comment tu fais pour écrire aussi bien? Bravo Dadine. Alors en fait, Dadine, moi, mon émission sur le jeu vidéo, ça me plaît, c'est le dimanche soir. Mais sache que des streams avec du jeu vidéo, où je joue, quoi, c'est tous les jours. Hein. Là, cet après-midi, il y aura du Valo, je pense. Et ce soir, on fera peut-être du. Le jeu avec lequel j'ai joué avec Donald Renew dimanche. Truc de zombie là. Oh là là. Merci Dadine. The Walking Dead. Je pense qu'on prend ça ce soir. Ouais. Un projet de pétition, j'ai un projet de pétition. Ouais. Enfin, si j'ai un projet de pétition que je lancerai en fonction d'un truc qui se passera ou pas, et là je lancerai une pétition de fou, un truc, une pétition dont tous les médias parleront. Ouais. Mais je sais pas si je le ferai. Ça va dépendre de certains événements. Mais si certains événements se déroulent, je lancerai cette pétition. C'est une pétition dont tout le monde parlera. Non, pas le nerf de Gecko, non. Gecko, il faut pas le nerf. Bon, je vous lis encore un petit peu, c'est mon plaisir. Qu'il y a 20 minutes d'intro, on a le temps. Non, c'est pas une pétition contre la guerre. Ça marche pas trop, hélas. Tu auras un partenariat avec le nouvel anneau? Non, pour l'instant, non. Salut, Dooms. C'est mon plaisir de vous lire, quoi. C'est quoi cette information de Zinzin Furieux? Faut donner des infos. Je vous en parlerai, je vous en parlerai. Non, c'est pas une pétition pour le retour de la monarchie. Hugo, il est en pleine forme. On a bien fait de le garder. Vous avez vu, on a bien fait de le garder. Dark Charlot, tu as mon email pro sur mon compte Twitter X. Elle concerne qui cette pétition? Elle concerne l'humanité, Melben. Une pétition contre les méchants. Quelque part, oui. Salut, Skylos, dont c'est le premier message. Sugar, t'es sûr que t'as deviné? Ah non, quand je dis pour. Ah non, l'humanité, je parlais pas du journal. C'est vrai que j'ai parlé de l'humanité qui avait besoin de sous, là, qui sont un petit peu financièrement fragiles, là. Ah non, 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 l'humanité, non, non, je parlais pas du journal, je parlais de l'humanité, l'humanité. Vous êtes plusieurs à me parler de clair-obscur, j'adore ce jeu, mais je lance trop de jeux. Moi, j'essaie de rattraper mon retard sur la culture jeu vidéo. Je peux pas me permettre de jouer toujours au même jeu vidéo, donc je change assez souvent et je vais pas toujours au bout des jeux, sauf Valorant que j'ai fini déjà plusieurs fois. Mais voilà. Donc voilà, c'est comme une actualité chasse l'autre, parfois un jeu chasse l'autre. Voilà. Je viens d'arriver quoi? Je viens d'arriver, c'est quoi cette pétition? Je vous en parlerai plus tard. J'ai testé WoW, ouais. Comment ça, je parle de tuto de Valorant? Non, j'ai fini le jeu, moi. Plusieurs fois, Valorant. En parlant de pétition, il y a celle pour la sauvegarde du palais de la découverte. Ouais, Daruxan, tu as raison. Je pense que je vais essayer de vous trouver des articles dans les prochains jours sur le sujet. Et on voit, il y a encore des pans entiers du jeu vidéo que tu n'as pas découvert. Mais oui, Doc Jordan, carrément, carrément. Comment ça, 1117 heures de Valorant en stream? Bah voilà, c'est ça, Abracor. Le jeu, je l'ai fini plusieurs fois déjà. On va parler du Louvre? Non, pourquoi, Monsieur Biganon? Pourquoi tu veux parler du Louvre? Quel a été ton premier coup de cœur dans le jeu vidéo? Pong, Nobins. Pong, P-O-N-G. Merci, Tatine Maline. Tu pars quand en vacances? Je pars le 5 juillet. Un mois. Voilà. En Corse, que j'adore. Voilà. Sauf que c'est des vacances à la Samuel. C'est-à-dire que j'emmène mon setup. Ça va streamer tous les jours. Y a de la fibre. Donc. L'orthophonie s'est bien passée, merci Margoton. Strawberries vient de dire pas de stream pendant un mois. Tous les jours. Tous les jours. Ça va streamer tous les jours. Il y aura de la revue de presse, il y aura du gaming. Un stream par jour, faut pas déconner, hein, sinon je vais me faire virer de la maison. De vacances. Mais ah non, un mois de vacances, ça va streamer tous les jours. De temps en temps, je sortirai, j'irai voir dehors. J'irai prendre une glace. Comment t'as commencé à tomber dans les jeux vidéo? Bah en fait, Brownie, je me promenais dans la rue. Comme ça, mais ah, il faisait assez beau d'ailleurs. Et je suis assez distrait comme garçon. Je marchais comme ça, le nez en l'air, le nez au vent, tu vois, le poète, quoi. Et j'avais pas vu, il y avait un énorme trou dans la chaussée rempli de jeux vidéo. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le jeu vidéo. Ça, c'est dingue. Piscine, plage, famille, stream. Ouais, c'est ça, voilà. Ça va être ça. Glace, glace, t'as oublié. Glace. Tu préfères Valo ou les vacances? Je réponds pas à cette question, je me fais engueuler. Salut Gablit. Coucou Samuel, tu as un petit coucou du plus petit Michel. On espère te voir l'année prochaine. Sa place de plus jeune Michel sera volée par son petit frère. On parle des Michel de la Zidane, par exemple? Ben oui, les glaces, c'est important. Avec la virtuosité de cette réponse, tu pourrais faire homme politique, dit Corentin Son. Ou Corentin Sonne. C'est prévu, c'est prévu. On a un projet pour 2027 ici. Merci Gablit qui régale, qui offre des abonnements à la commu. Merci Bang Bang Keshak. Merci Kain CS2. Merci Neivive. Merci Turambar. Toujours dans l'objectif d'être le meilleur joueur du monde de Valo? Oui, toujours Noah. Alors, je suis fer 3, donc je suis pas très très loin de l'objectif. Quel parfum à la glace? Tous les parfums en général. J'aime toutes les glaces, moi. Ah, le fameux projet, la France est mienne, dit Cyril. Non, non, c'est pas ta France, Cyril, c'est la mienne. Non, c'est non. C'est pas la France est mienne, c'est la France est tienne. Ce serait pas toi le candidat d'UPS que tout le monde attend? Ah non, mais non, ah non, mais moi je redistribue les cartes, moi je crée un parti, moi, les Samuelitos. Ah non, fini les. Ah non, mais je dynamite le paysage politique français, moi. Le PPF. Oh, ça c'est beau ça. Genesis, pourquoi l'objectif c'est devenir. Il n'est pas déjà le meilleur joueur du monde, Valo? Tu as deux doigts de devenir VIP, toi. Merci Bonbon Keshak pour ton message. Oh. T'inquiète, Gablit, t'inquiète. Alors, de pacte. Attends, c'est long ce message. Attends. Oula, c'est la plein. Tu peux pas m'envoyer un DM ou un mail de pacte sur mon mail pro et sur Twitter. Parce que là, il y a beaucoup d'infos là. Tu redistribues les cartes, mais pour jouer à quoi? Bah la belote, Pugineur. Suis un peu. Ah, le Louvre! Ah ouais? Un jour de grève au Louvre? On va aller voir ça. Ouais, il y a. Attendez, il y a Monsieur Puguilon qui me dit au Louvre, le musée le plus visité au monde, hein, quand même, hein, les gars. Le personnel s'est mis en grève un jour, ce qui n'était genre jamais arrivé, en raison de leurs conditions de travail impossibles et plus généralement le surtourisme. On va voir, hein. Est-ce qu'il reste des Samuels d'or pour la Zidane Samuel Etienne? Il en reste Drakeos. On va aller voir ça, hein. On commence par ça? Ok. Puis après, je vous ferai un petit sommaire de ce que je vous ai mis de côté. Ok, le Louvre. Merci Nova. Let's go. Salut un fruit en hiver. Tu sais qu'on est quasiment en été là. Hein? Enfin, le monde. Effectivement, tu as raison, monsieur Biganon. Le Louvre bloqué plusieurs heures à la suite d'une grève surprise de ses agents d'accueil. Des employés qui entendaient dénoncer le surtourisme. Mais voilà, mais on est trop. Mais c'est ça, c'est parce qu'on est trop. On est trop séduisants, nous les Français. Et nous les Parisiens d'ailleurs. Hein, une première destination touristique du monde. Voilà, arrêtez d'être beaux, les Français, les Françaises, et aimables aussi, les Parisiens, là. C'est fou, ces sourires, les Parisiens, que vous tendez tout le temps, notamment aux touristes, là, cette politesse, cette gentillesse, cette amabilité. Arrêtez, arrêtez, c'est épuisant, hein, aussi, après, tout le monde vient. Arrêtez d'être gentil et beau, hein, les Parisiens. Hein. Donc. Ah, suppression de 200 emplois en 15 ans aussi. Donc le musée du Louvre est resté inaccessible pendant plusieurs heures hier. Le mardi, c'est fermé, je crois, non? De toute façon, quoi. En raison d'un mouvement social spontané, ça c'est intéressant, des agents d'accueil dénonçant le surtourisme et la dégradation de leurs conditions de travail. Donc le musée n'a pu ouvrir qu'aux alentours de 14h30. Voilà, du coup, il y avait des grosses queues. De visiteurs. Ok. Les agents d'accueil et de surveillance protestaient contre la surfréquentation des problèmes de sous-effectifs. Ils disent qu'en 15 ans, ils ont perdu. Oui, bah oui, des files d'attente, quoi. 200 emplois perdus. En équivalent temps plein. L'engouement des visiteurs. 20 000 admirent chaque jour la Joconde de Léonard de Vinci, gêne en effet souvent les conditions de visite des espaces environnants, notamment les noces de Cana, par exemple, magnifique, Véronèse. Le Louvre qui a accueilli près de 9 millions de personnes en 2024. D'ailleurs, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, que je vais rencontrer, je crois, une fois, avait tiré la sonnette d'alarme en janvier dernier, décrivant une institution vétuste. Elle ne parle pas de moi, hein, elle parle du Louvre. Confrontée entre autres à des problèmes d'infiltration d'eau, elle ne parle toujours pas de moi, et de température, toujours le Louvre, dans les salles pour la conservation des œuvres. Le président Macron a annoncé en réponse un projet de rénovation de colossal dont le coût est évalué à environ 800 millions d'euros sur une dizaine d'années. Ok, intéressant. Merci à l'ami viewer, Monsieur Biganon, si ma mémoire est bonne, qui nous a attiré notre attention sur ce sujet. Et encore merci Gablit. Ouais. Ah non, quelqu'un me demande si on a commencé. Ah bah non, 31 minutes, c'est l'intro là. C'est l'intro. Oh, c'est bon le thé. Faut boire du thé. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Ouais, mais le Louvre achète des œuvres hors de prix aussi, me dit Polymail. Bah oui, bah, ils vont pas acheter des croûtes non plus. Hein. T'es vert ou t'es noir? T'es jaune, je dirais. Faut pas laisser trop le sachet, ça va infuser. Ouais, c'est dégueu, je vais l'enlever. Pourquoi il y aurait plus de thé dans 30 ans? Je sais pas, c'était pour dire une bêtise. Comment ça, c'est plus du whisky chaud? Oui, c'est du whisky chaud, mais il y a des nouveaux, ils savent pas. On leur dit pas tout. Je dis pas tout, moi. Comme il était un peu amer, j'ai eu une envie de rajouter du Coca Zéro dedans. Mais après, je vais me faire engueuler. Je vous connais. Comment ça, le coussin à l'envers? Ah ouais. Wololo! Age of Empire! Comment ça? Coca Zéro? Ouais, c'est super bon. Wololo, ayo, wololo. Alors le thé jaune. Oh, le thé jaune existe, Cyril. Le thé blanc, je connaissais. Mais le meilleur, c'est le thé sombre, aussi appelé pu erh en Chine. Oh là là, j'ai appris un truc. Café Coca, oui, mais thé Coca. Vous voulez qu'on l'essaye? Vous voulez qu'on l'essaye? Vous voulez qu'on essaye thé Coca pour je voulais que je vous dise? Merci Lucien Ducasse. Pour le 38e mois, espèce de beau gosse. Pour la science? Allez, c'est parti. Ah, comme dit Tana, ça c'est du journalisme, voilà. Avec voilà, ça c'est une chaîne d'infos, ça. Je vais faire mon propre Ciao Kombucha, voilà, c'est ça. Putain, pourrais me sponsoriser les autres là, putain. Ok, thé Coca-Cola. C'est un peu un goût d'eau sale, je dirais. D'ailleurs, tu fais pas le GP bizarre. Alors, je peux pas être invité partout, Tana. Attends, le GP, c'est combien de personnes? Squeezie, il a invité combien de personnes? C'est très peu de gens. Pourquoi j'en serais, moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il y a plein de gens qui peuvent être invités au GP, quoi. Hein, pourquoi ils vont inviter un quasi-octogénaire qui va faire un tout droit premier virage, potentiellement faucher 2-3 monoplaces, finir à l'envers dans les gradins. Hein? Il a peut-être, tu vois, peut-être d'autres gens à inviter. C'est ça qu'on aime? Tu as peut-être ta propre voiture? Ouais, mon Dacia Duster, mais je suis pas sûr que ça va être accepté. Tu es beaucoup plus influent que Squeezie lui-même? Gentil mais faux. Tu y seras en tant que supporter? Oh bah non, il fallait m'inviter. Pas déconner quand même. Pour que ça foutre. Salut David. La Dacia Duster qui a 4 roues motrices. Non, non, 2 roues motrices. Par contre, j'ai pris option vitre électrique. On se refuse rien ici, hein. Bon, enfin, j'ai rien pris tout parce que c'était une occasion, mais elle est full option. Elle a le volant, les roues. Elle a, j'ai pris, enfin, j'ai pris, j'ai pas pris. Vitre électrique. Par contre, elle a pas le comment on dit là pour se repérer là. Le truc qui donne les cartes là. Elle a pas ça. GPS, voilà, pas GPS. Elle n'a pas aucun truc de recul, caméra de recul non plus. Voilà, c'est là-bas. Eh ouais. Tu vas nous dire qu'il y a une roue de secours aussi, je sais pas. Simili-cuir, non, c'est du tissu. Un beau tissu gris marronasse, très bien. Est-ce que tu participerais au prochain DTR Fight de Billy pour montrer au monde la puissance du dragon qui sommeille en toi? Ça n'est pas un mystère, Bromek, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. DTR Billy quand il veut. Voilà. Après, faut trouver l'adversaire, c'est pas facile. Ça. Faut trouver un adversaire qui est quasiment l'article de la mort, quoi. Au même niveau, quoi. Merci à Okayas pour le 27e mois. Merci beaucoup. 2 ans, 3 mois. Pop, pop, pop. Pourtant, tu aurais multiplié par 4 le nombre de viewers du GP si tu avais été invité. C'est faux, mais c'est gentil, Noah. Contre Julien Lepers? Trop jeune, trop jeune, trop jeune. Non, quelqu'un de plus vieux. Non, un plus vieux, plus vieux, plus vieux. Non, Julien, il est trop vif, trop vif. Trop vif. Drucker, Michel Drucker, ouais. Ravus, c'est un enfant. C'était pas Ravus. Non, non, une fois. Non, non, Michel Drucker, ouais. Michel Drucker, encore Michel Drucker, après une grosse journée de télé, tu vois. Gilles Boulot, trop jeune, trop sportif. Madonna? Non, non, c'est une femme. Oh! Le père Foura, le père Foura, c'est une bonne idée. On dit pas père Foura, on prononce pas le S. Al-Shabaab, trop jeune. Giscaf, tu voulais écrire Giscard peut-être? Chien GPT. Et après on se demande pourquoi les modérateurs ils sont intraitables, t'ont mis en utilisateur suspect. Pascal Praud trop jeune. Michel Sardou trop jeune. Gérard Larcher trop jeune. Charles de Gaulle trop mort. William l'énergie, William l'émergie. Jean-Luc Reichmann trop jeune. Jacques Chirac trop mort. Joe, c'est un pote. D'Ormesson trop mort. Renaud, trop non, trop vif Renaud. Vorona, te moque pas toi aussi, t'es suspect. Raymond Poincaré, hein? Mon petit cousin qui vient de naître, hein? Et maintenant, le combat que vous attendez tous. T'imagines à l'arène, je sais pas quoi. Et maintenant, le combat que vous attendez tous. Voilà, le dernier combat de cette soirée exceptionnelle. Ça, c'est, t'imagines Billy. Voilà. Samuel Etienne contre un nouveau-né. Let's go! Et Samuel Etienne s'élance sans pitié. Il n'attend aucune seconde, direct coup de coude sur le. Imagine le bébé gagne. Chien GPT, ça veut dire quoi, utilisateur suspect? Ben, ça veut dire être comme toi. C'est-à-dire que les modérateurs, un jour, sont tombés sur certains de tes messages qui devaient être problématiques dans ce que tu disais, dans ton rapport aux autres viewers. Et donc, ils t'ont mis une petite couleur spéciale qui fait que, eh bien, on voit bien tes messages, tu vois. Vous n'êtes pas très très nombreux, hein. Voilà, c'est pas une, vraiment une sub. Alors, certains en sont fiers parce qu'ils n'ont pas bien compris le principe, mais c'est pas foufou, quoi. Voilà, il est spécial, effectivement, ouais. C'est un peu les fichiers S du chat. C'est une petite surveillance, comme ça. Ça part au bout d'un moment, bah, ça peut être levé par les modérateurs, ouais. Non, J-Hope Fantasy, t'es pas problématique. Il y a très peu de gens qui le sont, hein. Très, très peu de gens. Après, certains en sont fiers, tu vois. Ça, je peux rien contre ça, quoi. Les gens qui sont fiers d'être fichés, ça, moi, j'y peux rien. Bon. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se fait un petit sommaire? Oui, c'est un peu un brush électronique, oui, Abu Oda, c'est ça, ouais. Certains journalistes sont fichés S, oui, moi je suis fiché S par exemple. Fricassé de fève au bellota. C'est un truc dont j'ai jamais parlé, ça d'ailleurs. Donc ça arrive. Les gens très bien qui sont fichés S. Comment ça? Bah oui, fiché S. S comme sexy. C'est ça? Non? Non. Ah non, vous parliez d'un autre? Pardon, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Bon. Putain, je suis en forme, hein. Bye 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 bye. Ok. Pff, désolé, désolé, je m'excuse, je m'excuse. Vous couperez ça au montage, les gars. Vous couperez ça au montage. Ok. Alors, à votre avis, on va commencer par quoi? J'ai honte, Jerry, moi aussi, pépère du moi aussi, j'ai honte. On commence par quoi, à votre avis? Bon, c'est pas compliqué, hein. Quelle sera la première actualité que nous avons évoquée ce matin? Bah oui, une guerre, bien sûr. Un petit sujet léger pour commencer, bien sûr. Bien sûr, hop, c'est parti. Alors, on va commencer par. Bougez pas. Le monde. Le monde qui parfois est un peu plus compliqué à capter que les autres. Ne bougez pas. Ok, voilà, c'est parti. Alors c'est Le Monde d'hier après-midi. Hein. Le Monde est un journal anciennement qui tirait le soir, qui sortait le soir et qui désormais sort en début d'après-midi. Voilà, nous on est dans le sommaire là. Et donc là, je vais d'abord vous montrer le Monde d'hier après-midi. Pourquoi? Parce que le Monde de cet après-midi est en train de sortir. Alors, si je vais là, c'est la dernière édition du Monde. Voilà, qui sera accessible dès 13h. Dès 13h, sachant qu'il y a un abonnement plus cher, si je comprends bien, d'ailleurs, on peut l'avoir dès 11h. Voilà, mais dès 13h, on sera encore en vue de presse, on aura la prochaine édition du Monde, ce sera intéressant peut-être d'aller jeter un œil. Je prends les infos dans Le Monde d'hier après-midi. L'Iran frappé de toutes parts, menacé de chaos, c'est un peu ce dont on va parler ce matin. Est-ce que le régime théocratique des mollahs iraniens peut-il s'écrouler à la faveur de cette guerre lancée par Israël? C'est une des questions qu'on va se poser ce matin. L'attaque lancée le 13 juin par Israël s'est poursuivie les jours suivants, tuant au moins 224 personnes, selon un bilan officiel. On en parlait hier. Les bombardements visent désormais aussi bien des objectifs militaires et nucléaires que des lieux de pouvoir ou des infrastructures énergétiques. À Téhéran, où le monde a pu joindre plusieurs habitants, cette stratégie est perçue comme une volonté de plonger le pays dans le chaos. Les autorités ont annoncé la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Voilà, on lira ça. On lira aussi un dossier qui est dans le Parisien ce matin, je crois, et qui pose effectivement cette question. Est-ce que le régime iranien peut s'écrouler? Défi en 2022, on en avait parlé ici, par une partie de la population lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté, les mollahs subissent un nouvel affront avec les bombardements israéliens. Voilà, le régime des mollahs joue sa survie. Dossier ce matin. Dans le Parisien. Hier, on a passé deux bonnes heures, je crois 2h30 sur le sujet. On continue ce matin. Je n'ai pas tous les messages dans le chat. Certains sont plus ou moins bien informés. On verra ça tout à l'heure. De quoi je vous parlerai aussi ce matin? Je vous parlerai de la Une de la Croix. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes? Voilà. La Croix est un journal qui réfléchit, un journal qui prend le temps, qui fait des gros dossiers assez bien documentés. Voilà, il y a un projet de l'exécutif actuel en France d'essayer d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Voilà. Et du coup, La Croix consacre un dossier à ce sujet en ayant manifestement choisi son camp, puisque le titre de ce dossier, c'est Tout le mal qu'ils font aux jeunes. Voilà. Réseaux sociaux et santé mentale, ce que dit vraiment la science. Emmanuel Macron promet d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans prochainement. En France, une loi le prévoit depuis 2023, mais reste suspendue à la validation de l'Union européenne. Les réseaux sociaux sont de plus en plus responsables du mal-être des jeunes, bien que le consensus scientifique ne soit pas total sur le sujet. On comprend déjà que dans le dossier de la Croix, il y aura des avis divergents. Voilà. Et on n'est pas sur. Oui, c'est super. Non, c'est nul. Oui, mais en fait, techniquement, c'est impossible. Voilà, on va un petit peu plus loin avec la croix. Merci pour le Vergent, Héro Brinou. Il y en a un qui suit. Merci, monsieur Coco. Je veille de la blague. Voilà. Et là, je pose la question. J'ouvre le débat. Non, parce qu'on ne peut plus rien dire. Hein? Est-ce qu'on a le droit au sommeil? Hein? Oui, mais bien. Voilà. Est-ce qu'on a le droit au sommeil? Voilà, ça, c'est dans Libération. Petit article réflexion, page 20. Pascal, il n'y a que toi qui résume la croix comme un journal catho. Si tu lisais la croix de temps en temps, Pascal, je t'aime beaucoup, hein, tu sais. Tu éviterais ce genre de raccourci. On n'est pas à Mario Kart ici. Hein. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand tu te mets des œillères, tu ne vois pas finalement. Mais je t'aime bien, Pascal, quand même. Hein. Mais lis la croix un peu, tu verras. On va page 20. Hop. À quand un droit au sommeil? Comment fais-tu pour garder le moral? Depuis pas mal de temps, me dit Raton Mouche, je ne peux plus lire, regarder l'actualité, tout ça me déprime bien trop. Je me demande seulement comment tu fais pour garder le moral et cette joie de vivre. Je joue aux jeux vidéo. Non, mais en vrai, tu as raison. Le bombardement des mauvaises nouvelles tous les jours, c'est un enfer. C'est un enfer pour le moral, quoi. Donc, choisissez vos doses d'infos. Vous n'êtes pas obligé de vous asséner, de vous infliger des doses d'infos comme ça, quotidiennes, tous les jours. Hein, je le dis souvent. Virez-moi les notifications de vos téléphones, de vos ordinateurs. Là, on n'a pas besoin de savoir en temps réel hein, qu'il se passe un drame à l'autre bout du globe, non-stop. Là, vous n'avez pas besoin de ça. Lisez un journal de temps en temps, c'est OK. Virez-moi les notifs. N'allez pas me consommer des chaînes d'infos pendant des heures. Là, parfois, on voit des personnes âgées qui passent leur journée devant des chaînes d'infos. Et après, à la fin de la journée, tu croises le papy, la mamie qui dit « Oh là là, rien ne va plus. Vraiment, c'était mieux avant. Et puis, vraiment, le monde va à volo. » Tu m'étonnes. Tu viens de taper 12 heures de CNews. Mamie, c'est normal, enfin. Eux, ils font leur beurre. Ils vivent de ça. Donc, voilà. Donc, ne vous infligez pas ça, quoi. Choisissez vos temps d'actualité, quoi. Venez de temps en temps dans la matinée, Étienne, ça ira très bien. Merci, Keldar 63 pour le 9e mois. Alors, intéressant dans Libération. À quand un droit au sommeil? Devenu rare. Et oui, on dort de moins en moins. Ces news, ils vivent du beurre. C'est pas faux. Parce qu'elle est bonne, celle-là, elle est bonne, celle-là. Devenu rare. On dort de moins en moins, les amis. Dévaloriser, marchandiser le sommeil constitue, selon Paul Klotz, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, un enjeu... d'action publique. La convention citoyenne annoncée par le président de la République sur les temps de l'école pourrait constituer un cadre pour porter des propositions. On dort moins et les classes populaires dorment moins que les gens les plus aisés. Je l'apprends dans ce... Il y a un truc... En fait, c'est une question sociale. C'est une question sociétale, c'est une question politique aussi. Ah ! Intéressant. Hein. Bah logique non, je sais pas, Captain Polyp, pourquoi? Développe, thèse, antithèse, synthèse, j'ai le bac philo là hier. Je vais essayer de dormir plus pour devenir plus aisé. Alors c'est pas tout à fait le... On va voir ça, on va expliquer ça tout à l'heure. On a trop romantisé le fait de dormir 5 ou 6 heures par nuit. Moi, j'en ai besoin de 9 ou 10. Je suis considéré comme une flemmarde, me dit Bad. Tu as raison, en fait. Moi, déjà, les gens qui se vantent là, sur tous les tons, qui dorment très peu, là, hein, qui mettent en perspective, en spectacle, leur faible sommeil. Hein. Et moi, je dors 3 heures. Et moi, je dors 3 heures, 4 heures. Ça me débecte. Ça me débecte. Bon, je rigole hein, parce que c'est, je suis évidemment concerné par le sujet. Je dors très peu et j'en fais pas mystère. Mais ce que je veux dire par là, en me moquant de moi, c'est que il y a pas de règle. Les scientifiques ont bossé là-dessus. Il y a des gens qui ont besoin de, alors 3 heures non, mais qui ont besoin de 5 heures de sommeil, d'autres qui ont besoin de 9 heures. Et c'est pas eux qui ont décidé. Hein, c'est comme ça. Ça me débecte. Ça pourrait être une nouvelle émission, tiens. Et donc, voilà, à chacun de trouver son centre de gravité. Et surtout, ne jugeons pas ceux qui ont besoin de 5 heures ou ceux qui ont besoin de 9 heures. Voilà, on est bien d'accord. Oui, la loterie génétique. Enfin, moi, la loterie génétique, c'est une chose. J'aimerais bien gagner la loterie tout court, moi, mitrandir. Tu vois ce que je veux dire? Petit euro million ce soir, là, pour me mettre bien, là. Et là, je peux te dire, ça va dormir. Hein. Là, ça va faire la grasse matinée. Hein. Bonjour, bienvenue dans la matinée, Étienne, à 18h30. J'ai loupé des trucs, parce que j'ai... Ah, là, là. Hein? Eh oui, Sugar, 250 millions ce soir. Un euro million et paf! Un GPS acheté pour la Dacia, c'est parti. Sam Debect, on le veut tous? Sam Debect. Ah ouais. Il y a une émission à faire, ouais. Que fais-tu avec 250 millions d'euros, Samuel? Rien, je change pas ma vie. Si, je mets un GPS dans le Dacia. Qu'est-ce que je ferais? Un GPS dans le Dacia. J'arrêterai pas Twitch, ça c'est sûr. Je sais pas. Sam Debect, on ferait quoi? Hey, Sam Debect serait quoi comme émission? Dégustation de trucs chelous, culinaire, émission de cuisine, tu testes des plats dégueux. Ah c'est bon, putain, tiens un truc. Excusez-moi. Non, je suis obligé de prendre des notes là, parce que là, vous me régalez là. Attends, j'ai un fichier, et une nouvelle idée d'émission et tout, parce que il faut être en veille, il faut être en veille. Idée de concept saison 2025-2026. Bon, déjà c'est écrit 2024-2025, il n'y a rien qui va là. Ah non, ça c'est un fichier vide, c'est pas le bon, je mets la poubelle celui-là. Idée de concept, il est où moi? Attends, j'étais. Idée de concept. Idée de con, je tape idée de con. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai. Donc ça me débecte, hein. Sinon, on avait Sam donne faim et Sam régale aussi. On avait déjà bossé là-dessus. 1h45 de toxicité, juste mal parler de tout. Ah, ça existe déjà ces chaînes-là. SH le bel homme. Ah bah non. Non, mais j'ai pensé à ça, ça me débecte. 1h45 de toxicité, juste parler mal de tout. C'est-à-dire, imaginez une chaîne qui ferait des petits rendez-vous, un petit peu d'infos, chaîne Twitch, mais vraiment que pour dire mal, que pour dire du mal de trucs et notamment de d'autres streamers. Non, chaîne Twitch, ça existe déjà ça. La place est déjà prise, mais c'est pas la peine d'aller sur ce créneau. Si vous cherchez bien, ça existe. Non, je donne pas de nom, moi, ça balance pas, mais moi je me promène sur Twitch et ce genre de chaîne existe littéralement. Pas très exposé d'ailleurs, hein. C'est pour ça que d'ailleurs vous trouvez pas le nom de la chaîne, c'est intéressant. Mais moi je suis tombé sur une chaîne comme ça et c'est pas une partie du contenu, c'est 100% du contenu. C'est un petit rendez-vous info slash, je sais pas quoi, oui. Et c'est vraiment que ça, c'est 100%. C'est que parler en mal de gens que la personne n'aime pas, quoi. Dans l'univers du numérique. C'est incroyable. C'est un concept. Vous n'avez pas le nom. Vous l'avez pas le nom. Vous l'avez pas trouvé. Mais ça existe, ça existe. Donc c'est pas la peine d'aller sur ce créneau, quoi. Allez, je continue mon sommaire, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, K, droit au sommeil. Et alors, Anne-Sophie Lapix. C'est dommage de réduire JDG à ça. Mais JDG, il est pas comme ça. C'est un mec formidable. C'est un mec formidable, JDG. Vous êtes fou. Rebeu des terres, mais Billy, c'est le mec le plus gentil du monde. Vous êtes malade ou quoi? Oui, Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix. Elle quitte France Télévisions et ça claque la porte. Ah, Olivier Mine, ça fait un moment déjà. Et oui, ah oui, ça c'est intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse. Alors, je suis pas trop actualité des médias. Hein. C'est un peu se regarder le nombril. Ouais. Mais quand même, j'aime beaucoup Anne-Sophie Lapix, qui est une excellente journaliste. Voilà. Qui a été virée du 20h, exactement, Cyril. Voilà. Lapix intègre le groupe M6. Bon, alors, je vous résume les épisodes précédents. Donc, Anne-Sophie Lapix, après pouh, combien d'années? Combien d'années elle a présenté le 20h? Très très long. Hein. C'est rare de rester aussi longtemps. Bref, elle est restée très longtemps en 20h de France 2. Et puis elle a été remerciée. 7 ans, c'est tout? Ah, j'aurais dit plus. 8 ans? Ok. Pourquoi elle a été virée? Ben, c'est pas très clair. Le communiqué disait que. Ben, je sais pas. Bon, on va essayer de trouver. Pourquoi elle était. Je sais pas. Ouf. Il y avait. Je sais pas. On a consacré. On avait déjà évoqué. On a des suppositions, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de, y a pas d'explication officielle, quoi. Voilà. Donc, elle a été donc virée du 20h et le groupe, bah, qui est le groupe pour lequel je travaille aussi, par ailleurs, hein. Le groupe France Télévisions a dit, mais on espère qu'elle sera là à la rentrée pour d'autres projets. Voilà. Et, bah non, en fait. Non. Ils comptaient sur elle à la rentrée, ils comptaient sur elle au moins jusqu'au 14 juillet pour qu'elle passe la main à son joker, quoi, et elle se barre là, fin juin, là. Elle se barre fin juin. Voilà. Le 26 juin, jeudi 26 juin, si vous voulez pas rater le dernier 20h d'Anne-Sophie Lapix, elle se barre et elle va chez RTL et chez M6. Voilà. Donc, bon, moi, c'est une amie, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, je trouve que c'est bah, bravo M6, bravo RTL. Et dommage pour France Télévisions parce qu'on perd une super journaliste et une super personne. Voilà. Dans la calvasse, ça va pas mieux. Attends, je le fais discrètement, mais quand je baisse la tête, ça fait peur. Voilà. Ouais, M6 RTL à fond sur les recrutements. Ouais, ils ont recruté Olivier Mine, qui est aussi parti de France Télévisions. Moi, je suis toujours là. Hein. 18h10, question pour un champion. J'entame ma 10e saison à la rentrée. 10e saison de question pour un champion. Voilà, 18h10, lundi, 18h10, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bim, bam, quoi. Voilà, le survivant. Ouais, 10 ans, ça fait. Je fais ma 10e saison en septembre. Ça fait 9 ans, plein. Et je commence ma 10e saison en septembre, quoi. On s'accroche. Il va pas présenter Fort Boyard cet été. Si, 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 Vaillac, je crois que c'est enregistré cet été déjà Fort Boyard. Encore 5 ans grand max et après il te vire pour un genou. Oh, ce sera avant, Boubou, elle trop l'adore. Je suis pas dupe. Hein. Hein, c'est normal, c'est dans la nature des choses. Un jour, moi je pensais que le téléphone aurait sonné il y a longtemps déjà. Hein, je surveille bien le téléphone au mois de juin, moi. Comme tous les présentateurs télé, on est tous là. Hein, un jour le téléphone sonne. Ou tu l'apprends dans le journal aussi. Tu dis, bon bah voilà, t'as fait ton temps. T'as fait ton temps. Voilà. Et ça fait longtemps que je pensais déjà que le téléphone aurait sonné. Il va bien finir par sonner. Hein? Merci, Malakoff. Bon, le plus tard possible. Hein? Idéalement, si je peux par rapport au trimestre de retraite, si je pouvais aller jusqu'à 67 ans, ça m'arrangerait, quoi. Allez, plus que 13 ans à tenir, quoi. Mais bon, j'en doute. Hein? J'en doute. Alors après, si on me laisse jusqu'au bout, moi je serais content. Tu peux apprendre ça dans le journal? Ah oui, la plupart du temps c'est dans le journal, ouais. Ouais? La plupart du temps c'est dans le journal. Tu peux toujours prendre le poste du père Foura. Ok. Change de numéro tous les ans fin mai, ça aidera. Ouais, grande madame, c'est adorable, mais du coup je le lirai dans le journal encore plus, quoi. Si tu pouvais choisir un remplaçant, ce serait qui? Ben, personne de préférence, j'aimerais bien pas être remplacé en fait, tu vois. C'est un peu le principe. Bien sûr qu'MMG a participé à Question pour un champion. On l'a même vu déjà. Si on t'invite à un interview, tu réponds. Pour aller faire le con sur les vachettes là ou. J'ai la flemme. Je suis désolé. Oh, pour sauter sur les boudins, là. Franchement, non, j'ai autre chose à foutre. Non, ça, oui, non, ça va être relancé, je crois. Cet été, là, je crois. Il y a un truc comme ça. Non. La carotte aigrie, t'es tellement aigrie, ça, c'est fou. Tu dois avoir. La carotte aigrie, t'as mal au ventre ou pas? T'as de l'acidité au ventre? T'as des aigreurs d'estomac ou pas? Parce que tu sais que tu vas te faire du mal. Hein. En fait, c'est le corps et l'esprit, c'est connecté. Hein. Tu vas nous faire des maladies. Hein. Tu m'inquiètes. Hein. Merci Malaco pour le 27e mois. Parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle la carotte aigrie dans le chat. Bon, bah, je pense que quand t'arrives à mettre aigrie dans ton pseudo, c'est que bon, ça doit. Hein? Bon, on y va? Salut Choupinet des Bois. C'est quoi Interville? Ah, oh, c'est une vieille émission. C'est une vieille émission. Tiens, je te montre. Interville. Oh, c'est une émission mythique. Voilà. Mais c'est une autre époque. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, c'est une émission culte. C'est une émission géniale. Mais est-ce que c'est une bonne idée de la ressusciter? C'est la question. Tiens, je te montre. En fait, c'est un projet de Nagui depuis très longtemps de ressusciter Interville. Merci, Jern54. Voilà. Et donc, ça revient là. Regarde, je te montre. Créé en 62 par Guy Lux. Et Claude Savary, diffusé pendant plus de 50 ans, toute mon enfance, top à la vachette. Il y avait des vachettes. Bon, il y aura pas de vachette hein, pour des raisons de maltraitance animale, bien sûr. L'émission jeu télévisée française bénéficie de la plus importante longévité et du plus grand nombre d'adaptations d'une émission française à l'étranger. Voilà. Et donc, voilà, il y avait plusieurs formules. C'était des villes qui s'affrontaient. Des jeux d'épreuves physiques, des jeux d'adresse, des questionnaires quiz. L'un des éléments caractéristiques de la formule d'origine est l'utilisation de vachettes dans des épreuves similaires aux épreuves taureau-piscine pratiquées dans les Landes françaises. Voilà. Il y a eu Guy Lux, il y a eu Simone Garnier, il y a eu Léon Zitrone, il y a eu, plus tard, il y a eu Jean-Pierre Foucault, Nathalie Simon, Tex. Voilà. Et donc, bon, je pense que. Voilà. Et Nagui, lui, il a le projet de relancer ça, donc ça revient. Ça revient. Attends, ça a été relancé déjà? Deuxième round d'Interville? Attends, il y a déjà une émission qui est passée? Là, je vois 10 juillet à 21h10 sur France 2. Place au deuxième round d'Interville. Gap contre Bourgoin-Jallieu. Voilà. Donc là, c'est animé maintenant par. Bah, vous voyez les animateurs là. On va trouver un article. Tiens, voilà. Interville sur France 2. Voilà, on a un article de West France. Générique, ville, vachette, le retour du jeu se précise. Gros enjeu, hein. Combien de numéros ils ont enregistré? Voilà, c'est la version d'Interville imaginée par Nagui. Ça se trouve, ça va être top, hein. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 4 juin, le présentateur de France 2 a dévoilé plus d'informations sur ce qui nous attend dans les prochains épisodes du jeu culte. Je savais pas qu'il y a eu une conférence de presse. Chut, monsieur, on parle ici, on bosse. Donc ça revient le 3 juillet prochain. Je regarderai avec les enfants, en vrai. En direct, en première partie de soirée. Voilà. Donc l'émission fait peau neuve grâce à une nouvelle équipe de présentateurs et de nouvelles règles. Si le principe de base, deux villes qui s'affrontent dans des épreuves bon enfant, reste de mise, tout le reste était prévu. Un petit Lyon-Saint-Etienne, un petit Marseille-Paris, ça pourrait être sympa par exemple, au niveau ambiance bon enfant. Donc Nagui et Bruno Guillon, donc deux bons animateurs, à la tête chacun d'une équipe. Les anciennes Miss France Valérie Beg et Camille Serre seront les supportrices des villes aux côtés des candidats, seront les marraines. Voilà, Johan Rioux, l'excellent, il sera de la partie aussi. Juge arbitre. On voit l'équipe, là, deux Miss France, deux animateurs. Johan Rioux, bah, y a une dame qui n'est pas citée, là. C'est qui? Sympa. Il y a une dame à droite qui n'est pas citée, là. Ah, Magali Ripoll, pardon. Ah oui, n'oubliez pas les paroles, bien sûr, elle est super connue. Se chargera d'animer la soirée en musique. Oui, c'est la dame de N'oubliez pas les paroles. Elle est super connue. D'accord. Ça fait 2019 que ça doit être relancé, mais maintes fois repoussé. Il y a eu la pandémie de Covid-19, il y a eu les JO et tout. Voilà. Je sais pas combien de numéros. Bon, c'est une émission culte, hein. Ok, oula. Il n'y a pas de vachette, mais il y a des. Il n'y a pas de vachette, mais il y aura des mascottes vachettes. Un candidat de chaque ville sera à l'intérieur de la mascotte qui sera là pour mettre l'ambiance, mais aussi pour être un ralentisseur, un obstacle. Donc il y aura ça donc. Ok. Ok. C'est Topa, c'est la mascotte Topa. Alors. Bon, on a toutes les villes là qui s'affrontent. Bon, ça va être sympa en vrai. Ouais, ça va être sympa en vrai. Ça va être sympa. Moi, je pars du principe que ça va être sympa. C'est un truc que je pourrais voir avec mes enfants. Vous savez, l'été, à la télé, il y a des programmes un peu pour la famille, quoi, notamment pour les enfants. Je pense que ça peut être un, si c'est bien foutu. Franchement, moi, moi, je vais regarder ça avec mes enfants. Ouais. On va. Jugeons sur pièce, comme je dis. Au fait, ça me tient pourquoi on n'a plus le numéro de la chaîne sur la télé, mais le logo France Télé à la place. Du coup, on sait plus où on est, c'est chelou. Ça, Floki, c'est pas moi qu'il faut demander. Hein. Moi, je suis pour rien, les gars. Hein. Faut demander au patron. Hein. Merci, GG Blues 17. Merci, Jeanne 54. Ah, les gars. Hein, je suis pas comptable de tout. Hein. Bien faire des efforts. Mais... Salut, Zem. Bon écoutage. Mais non, c'est pas moi le patron. Bon, on y va? On y va? Revue de presse? Ça fait une petite intro d'une heure, c'est calme, c'est calme. Merci Don Blue pour le prime à l'instant. Alors qu'on sait que tu es le cerveau de tout en sous-marin. Le patron officieux, comme dit Zucapion. Allez, c'est parti. Rachète France Télévisions pour nous donner la réponse. Mais chouchou, c'est public, on peut pas racheter. Enfin, quoi que, un jour, ce sera peut-être privatisé parce que c'est dans le programme du Rassemblement National de privatiser France Télévisions. C'est le projet ici, en fait. Je gagne à l'Euromillion, le Rassemblement National gagne les élections, il privatise France Télévisions, je rachète France Télévisions et j'en fais une chaîne d'extrême gauche. Oh merde! On n'avait pas prévu ça! Ah bah oui, mais. Bah oui, mais. Faut écouter mes streams. C'était le projet depuis le début, on ne vous l'a jamais caché, les gars. T'imagines, imagine. Ah, vous saviez pas? Si, si, c'est dans le projet du RN depuis toujours, ça, de privatiser France Télévisions et Radio France. Il y aura plus de services publics de l'audiovisuel. Ça va partir sur Twitter. Oh, j'ai l'habitude qu'il est 22, les gens ils savent que je troll beaucoup. Hein. Merci Barbedouce pour le Prime. Bon, on y va? Pardon de déconner, de raconter des bêtises. On va parler un peu sérieusement. Maintenant, c'est parti pour l'Iran et Israël. L'Iran, frappé de toutes parts et menacé de chaos, c'est la dernière édition du Monde qui va nous permettre un petit peu de revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé, quoi. Du coup, on paiera plus de redevances. Il n'y a plus de redevances Moolbit depuis un moment déjà. Mais tu devrais le savoir, mon ami. Merci le studio Geek pour ce gentil raid. L'attaque lancée le 13 juin par Israël. S'est poursuivi les jours suivants, tuant au moins 224 personnes selon un bilan officiel. Les bombardements visent désormais aussi bien des objectifs militaires et nucléaires que des lieux de pouvoir et des infrastructures énergétiques. À Téhéran, où le monde a pu joindre plusieurs habitants, cette stratégie est perçue comme une volonté de plonger le pays dans le chaos. Les autorités ont annoncé la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est sur notamment les infos de ces dernières 48 heures. Sachant que. Mais non, Moulbit, je t'ai suivi. Ah, putain, j'avais raté de capa. Et sachant que, évidemment, il y a d'autres informations qui. qui sont tombés depuis. À Téhéran, la menace montante du chaos. Lisons ce papier signé Ghazal Golshiri et Majid Zerouki. Dimanche 15 juin, on revient un petit peu en arrière. La nuit est tombée sur Téhéran, l'agglomération de 14 millions d'habitants transformée en ville morte, déserte hormis les longues files de voitures qui s'étirent le long des stations-service. Tout au long de la journée, les avenues et les voies rapides menant aux sorties de la capitale ont été prises d'assaut par les habitants, déterminés à se mettre à l'abri, loin, en province, loin des bombardements israéliens. Le matin même, l'armée israélienne avait exhorté la population iranienne, dans une courte déclaration publiée sur ses comptes en persan, à quitter immédiatement les alentours des usines d'armement et des institutions qui les soutiennent pour éviter de mettre leur vie en danger. Où pouvons-nous aller? Comment savoir si on est proche de ces lieux? Quelle zone, quelle ville avait réagi avec inquiétude des internautes iraniens dans les commentaires publiés sous les postes de l'armée israélienne? Donc après, on a des témoignages d'Iraniens qui ont vécu les bombardements. Un premier bilan qu'on a déjà évoqué hier, mais il a sûrement déjà évolué à l'heure où nous parlons. Selon le ministère de la Santé iranien, 224 personnes ont été tuées depuis le début de l'attaque israélienne. Donc dans la soirée du 13 juin qui a commencé, 1277 autres personnes ont été hospitalisées. 90% des victimes sont des civils, insiste le ministère iranien de la Santé. Et Le Monde ajoute, le bilan semble sous-estimé eu égard au nombre important de frappes et leur intensité. On lit Le Monde à Aurélio, bien sûr. L'organisation iranienne Human Rights Watch, Human Rights Activists, pardon, parle, elle, d'au moins 406 victimes. Donc Le Monde décrit l'inquiétude, décrit le chaos, voilà, et nous explique qu'au-delà des cibles militaires, des infrastructures énergétiques vitales sont désormais méthodiquement attaquées, des dépôts pétroliers par exemple, des raffineries, un champ gazier. Voilà. Le danger environnemental se conjugue aux dégâts économiques. Des postes de commandement de la police ont été également ciblés dimanche. Frappe qui, selon le journal, souligne le changement de stratégie d'Israël, qui s'en prend de plus en plus directement aux lieux de pouvoir et plus seulement les installations nucléaires iraniennes, puisqu'on en a longuement parlé hier. Israël motive cette attaque par le fait que, selon ses renseignements, l'Iran était sur le point de se doter de l'arme nucléaire. Je ne lis pas tous les messages, parce que certains ont depuis longtemps pris parti dans tout ce qui touche à Israël et aux Palestiniens. Voilà, donc bon, tout ce qui sort un peu du cadre info et relève plus de l'intervention militante dans ce chat est intéressant en soi, puisque vous proclamez vos opinions à la face du monde. Pour le coup, je ne les intègre pas forcément à ma revue de presse, donc je vous laisse continuer. Téhéran a annoncé dimanche la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution et de son adjoint. Assassinat qui survient après la mort le 13 juin d'une vingtaine des plus hauts gradés du pays et de 9 scientifiques du programme nucléaire. Alors, quelle est la question que nous nous posons? C'est quel est l'objectif d'Israël? Alors, il y a l'objectif, bien sûr, d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, sachant que les recherches en la matière ont été lancés il y a très longtemps. Et on est en train de se demander si l'objectif d'Israël n'est pas plus large en étant de faire chuter le régime théocratique des Mollahs. Voilà. L'Iran qui est un des ennemis jurés d'Israël depuis la naissance de l'État hébreu. Ça, je pense que vous le savez tous. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a par ailleurs laissé entendre sur la chaîne américaine Fox News que les frappes sur l'Iran pourraient conduire à un changement à la tête du pays.
Ce pourrait être certainement le résultat parce que le régime iranien est très faible, a-t-il déclaré, assumant implicitement une stratégie du chaos. Tandis que le bilan des victimes civiles s'alourdit. La colère de Samira grandit, on va comprendre qui est Samira dans un instant. Pourquoi tu parles toujours du premier ministre israélien et jamais du président israélien? Parce qu'en fait, tu compares avec notre régime politique qui n'a absolument rien à voir. Et le président israélien a une fonction honorifique. Il ne sert strictement à rien, il a un petit pouvoir d'influence morale. Il inaugure les hôpitaux, etc. Le siège du pouvoir en Israël, il est au gouvernement et uniquement, contrairement à chez nous. Mais voilà pourquoi. Ça, c'est le régime politique israélien qui veut ça. Un président dans tel ou tel pays, ça a des fonctions extrêmement différentes d'un pays à l'autre, selon la constitution du dit pays. Il y a autant de pouvoir que de pays dans le monde, hein, même si vous pouvez les ranger dans de grandes familles. Voilà pourquoi nous ne parlons jamais du président qui ne sert à pas grand-chose. Comme en France, il y a eu des présidents sous d'autres régimes politiques qui ne servaient pas à grand-chose non plus, notamment sous les régimes de la Troisième et la Quatrième République. Donc la colère de Samira grandit, des innocents ont été tués, je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi les voisins de ce monsieur, Mohamed Mehdi Terranchi, que l'on dit membre des gardiens de la révolution, doivent-ils périr? Cette dame, Samira, cette iranienne, avait par le passé essayé de faire évoluer le système de l'intérieur en votant lors d'élections pourtant étroitement encadrées en République islamique comme des candidats perçus comme plus modérés. En vain, elle est également descendue dans la rue en septembre 2022 après la mort de Gina Amini, on en avait beaucoup parlé ici, décédée pendant sa garde à vue en raison d'un voile mal ajusté qui avait poussé dans la rue des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes. Depuis la mort de Massa, je n'ai plus porté le voile, qui est pourtant obligatoire en Iran. Voilà. J'avais beaucoup d'espoir que ce mouvement apporte un changement réel, mais le régime recule face à la volonté du peuple et se réforme. Cela ne s'est pas fait. Voilà où nous en sommes à cause de ces dirigeants. Mais tout cela ne change pas le fait, dit cette iranienne, qu'aujourd'hui c'est Israël qui tue des innocents à Gaza, c'est Israël l'agresseur, et je ne me rangerai jamais du côté de l'agresseur. Cette dame n'a aucune sympathie pour le régime politique iranien, mais ça ne fait pas d'Israël pour elle un allié, bien sûr. Dans son entourage, mettons un peu de nuance, c'est intéressant. Dans son entourage ou parmi les personnes qu'elle croise, les avis sont partagés. Dans son quartier, touché par les frappes israéliennes, elle a discuté avec un coursier, un employé d'épicerie, appartenant aux couches les moins favorisées, précise-t-elle. Eux estiment, selon Samira, qu'Israël ne vise pas les citoyens ordinaires et que tout le monde n'a ni les moyens ni la permission d'habiter dans les immeubles où vivent les gardiens de la révolution ou les scientifiques nucléaires. Ils se disent impatients d'être débarrassés de ce régime. Voilà, les médias d'État ont d'ailleurs rapporté l'arrestation de plusieurs Iraniens accusés d'avoir publié des images des attaques ou s'être réjouis des attaques israéliennes. Une militante étudiante a été arrêtée par exemple à Téhéran en raison des messages qu'elle a publiés sur le réseau social X. En disant notamment « Cet enfer que nous vivons a peut-être eu de nombreux porteurs de bois, mais un seul démon l'a allumé, le despotisme religieux », avait-elle écrit dans son dernier message. Intéressant ce regard un petit peu de l'intérieur aussi. Ok. Lisons aussi, je vais m'arrêter, je fais une pause et je vous lis. On lira aussi le résultat des frappes iraniennes contre Israël. Puis après, on ira voir des infos plus fraîches aussi en nous posant cette question. Est-ce que le régime iranien, le régime actuel, peut chuter ou pas? En fin de compte, l'Iran est vraiment un pays divisé, comme tous les pays, en fait. Considérer à chaque fois une opinion publique comme quelque chose de monolithique qui n'est pas traversé par des fractures, c'est une erreur. C'est comme quand vous dites « les Israéliens pensent que ». La société israélienne est aussi une société divisée, comme la société française l'est d'ailleurs, quoi. Je vous lis. Hein. David, comme souvent sur ce sujet, hein, David Ayoun, tu laisses tes convictions s'exprimer de façon assez ferme et répétée dans le chat. Voilà, n'oublie pas que c'est une revue de presse où on lit les infos et on est. C'est d'abord ça et ça n'est pas un espace où s'opposer, et notamment à tous les gens qui ne pensent pas comme toi. Voilà. David, fais attention. Hein, ce n'est pas. Si ce chat doit devenir un endroit où les militants de France s'opposent en permanence en opposant leurs opinions non-stop, j'arrêterai cette revue de presse. Et j'irai jouer à Valo. Parce que c'est, en fait, ça devient insupportable si tout le monde fait ça. Oui, le sujet est tellement clivant que les gens ont du mal à nuancer, mais pourtant certains y arrivent. Donc si certains y arrivent, tout le monde peut faire cet effort. Je vous lis, hein. Merci Rebelle Soldier. Canard enchaîné, intéressant à consulter. Le Canard était un grand journal, un grand hebdo, mais moi j'ai arrêté de lire le Canard, parce que ces dernières années je continuais à le lire par habitude, parce que c'était vraiment comment dire, un totem, un journal incroyable, et en fait, je ne trouvais plus rien d'intéressant dans le Canard. Est-ce qu'ils ont moins de journalistes qu'avant? Est-ce qu'ils font moins d'enquêtes? Est-ce qu'ils sortent moins de trucs? Enfin, peut-être que c'est redevenu sympa, mais j'ai arrêté de le lire. Merci David. Continuons et je vais essayer de répondre à vos questions, certaines des questions essentielles. C'est pourquoi par exemple, pourquoi ne veut-on pas? C'est une question qu'on a beaucoup traitée hier, mais qui m'est reposée aujourd'hui. Parfois en spammant, mais je le comprends. Pourquoi ne veut-on pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire? Pourquoi la communauté internationale? Alors là, qu'est-ce que la communauté internationale déjà? Pourquoi la communauté internationale, les États-Unis, les pays européens, mais aussi, même s'ils ne le disent pas très fort, les pays arabes de la région, ne veulent pas que l'Iran se dote de l'arme atomique, quoi. Donc ça, c'est une question qu'on a beaucoup évoquée hier. On va essayer d'y revenir, quoi. On peut peut-être d'ailleurs trouver un. Avant d'aller plus loin, parce que je sais que c'est une info importante, on peut peut-être essayer de trouver un article qui de qualité avec une source un peu carrée qui répond à cette question. Pourquoi? Prenons le temps. Il y a les commentaires qui sont fous. Alors, essayons de trouver un papier un peu carré. J'ai un article du Monde d'il y a 3 jours qui semble essayer de répondre à cette question. Oh, les pubs. C'est parti. Pourquoi le programme nucléaire iranien inquiète-t-il Israël et les Occidentaux ? Okay. Comprendre en 3 minutes. Il y a une vidéo, mais je pense qu'il y a une transcription écrite. Donc, le Monde rappelle les bombardements israéliens, reprochant pourquoi, ça c'est l'explication officielle, reprochant au pays d'être presque capable de produire une bombe nucléaire, d'être sur le point de produire une bombe nucléaire. Et interprétant ce fait comme une menace existentielle, puisque l'Iran a clairement dit tout au long de son histoire, l'Iran théocratique des Mollahs, hein, l'Iran chiite, parce que l'Iran a une longue histoire aussi, cet Iran-là, ayant toujours nié l'existence de l'État d'Israël, et donc Israël considère que ce pays, avec une bombe nucléaire, serait donc une menace pour son existence, l'existence de l'État hébreu, hein, une menace existentielle. L'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait adopté la veille du 13 juin une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires, puisque l'Iran est sous surveillance depuis longtemps déjà, sous couvert de développer du nucléaire civil. Ces frappes interviennent alors que les États-Unis et l'Iran étaient en pleine négociation à ce sujet, on en a beaucoup parlé hier. Alors, on revient un petit peu sur l'histoire, c'est intéressant. En signant le traité de non-prolifération nucléaire en 68, l'Iran s'est engagé à ne pas chercher à obtenir l'arme nucléaire. Mais depuis 2002, les Occidentaux le soupçonnent de ne pas respecter cet engagement et de développer quand même cette technologie. Donc les soupçons ont commencé en 2002, ça fait littéralement 23 ans. Il le sanctionne d'ailleurs pour cela. L'Iran est un pays qui est frappé par des sanctions qui pénalisent l'économie iranienne et sa population pour cette raison. Plus concrètement, l'Iran est accusé d'avoir la capacité d'enrichir de l'uranium à hauteur de 60%. Un taux bien supérieur à celui qui est nécessaire pour faire fonctionner une centrale électrique. Voilà. Sachant que pour une bombe atomique, il faut plus, mais 60% c'est déjà trop au regard de ceux qui accusent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Et là, il y a une vidéo, effectivement. Bon, on peut se la taper, hein, c'est une vidéo de 3 minutes en vrai. Attends, je vais essayer de la regarder. Ok. Une petite pub. Pourquoi j'ai pas de son ? On s'en fout de la Lexus en vrai. Oh, c'est chiant.
Vous voyez cette jauge ? Quand elle arrive à 90%, un pays peut produire une arme nucléaire.
L'Iran en est ici. Et ça pose un gros problème à Israël et aux Occidentaux. L'Iran, c'est là. Et dans son sol, il y a ces petites pierres, de l'uranium.
C'est un matériau qui permet de produire de l'énergie nucléaire et il peut aussi être utilisé pour produire des armes comme des bombes atomiques.
Normalement, l'Iran n'a pas le droit de développer ce type d'armement. En 1968, il a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité vise à empêcher que d'autres pays se dotent de l'arme nucléaire et donc d'en réduire les risques d'utilisation. Mais en 2002, l'Iran est accusé par les Occidentaux de développer en secret son programme nucléaire à des fins militaires. De nouvelles sanctions s'ajoutent alors à celles qui touchaient déjà le pays depuis les années 70.
Pour limiter le développement du nucléaire iranien, un accord international est signé entre l'Iran et les grandes puissances en 2015. En échange d'une levée de sanctions économiques, le pays s'engage à ne pas enrichir son uranium à plus de 3,67%.
Attends, mais ça veut dire quoi, enrichir de l'uranium ?
En fait, pour qu'il soit exploitable, l'uranium doit être enrichi. Entre 3 à 5%, il peut servir au nucléaire civil, comme la production d'électricité. À partir de 20%, on peut par exemple l'utiliser pour la propulsion de certains sous-marins. Et au-delà de 90%, eh bien il peut servir à la production d'armes nucléaires. En 2018, les États-Unis de Donald Trump se retirent de l'accord, ce qui enlève au texte toute sa valeur. L'AIEA, qui contrôle l'usage du nucléaire, a confirmé que l'Iran produisait de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est bien au-dessus de la limite des 3%. Or, il est beaucoup plus difficile de passer de 3% d'enrichissement à 20% que de 60% d'enrichissement à 90%. L'Iran est donc proche d'être en capacité de produire une bombe nucléaire, contrairement à ses engagements. Le problème, c'est qu'un pays qui acquiert l'arme atomique ne voudra jamais s'en défaire. Et cela complique considérablement les relations internationales. Le 13 juin 2025, Israël a massivement bombardé des sites nucléaires iraniens. L'État hébreu considère que l'Iran aurait atteint un point de non-retour dans son programme d'enrichissement d'uranium et serait aujourd'hui capable de produire une bombe nucléaire en quelques jours.
Ok. À vous. On va changer un petit peu là-dessus. Merci Side de Roll pour le Prime. Je vais essayer de répondre aux questions auxquelles je suis en capacité de répondre. Je suis pas en capacité de répondre à toutes vos questions. Je ne suis qu'un modeste journaliste, quoi. Le problème, c'est qu'il y a tellement, pardon, mais une grosse partie du chat qui est tellement en mode affirmation d'éléments type militants les uns contre les autres que c'est compliqué de progresser en fait à partir de là, quoi. C'est un peu compliqué à. C'est un peu compliqué. Pourquoi ce timing alors qu'Israël est déjà engagé dans une autre guerre, demande Friol? Parce que l'Iran a rarement été aussi affaibli. L'Iran, jusqu'ici, arrivait relativement à se protéger d'Israël, notamment par ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire ses alliés, financés d'ailleurs en grande partie par lui, qui étaient, étaient parce qu'ils sont extrêmement affaiblis aujourd'hui, le Hezbollah pro-iranien et le Hamas, voilà, financés. Notamment par Téhéran. Le Hezbollah et le Hamas ont été affaiblis, vous le savez, et tapés violemment par Israël. Et du coup, aujourd'hui, l'Iran est en position de faiblesse, avec une armée qui ne peut pas résister à l'armée d'Israël, quoi. Donc ça, il y a ça. Il y a aussi, il y a plein d'autres raisons. Donc déjà, c'est un ennemi historique d'Israël, sans doute un des plus acharnés depuis la création de l'État d'Israël. Qui a juré la destruction d'Israël, hein. D'où la menace dite existentialiste vue de Tel Aviv. Il y a aussi le fait que Israël, le gouvernement israélien, est de plus en plus condamné dans le monde entier par la communauté internationale en raison de ce qu'il fait à Gaza. Donc un Israël de plus en plus isolé, de plus en plus condamné. C'est une façon d'ouvrir un contre-feu et d'attirer l'attention ailleurs. Une façon de faire diversion. C'est aussi un moment, même si on ne va pas surestimer le poids politique et diplomatique de la France, cette attaque intervient juste avant une réunion de l'ONU à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite qui allait peut-être, gros conditionnel, conduire à la reconnaissance de l'État palestinien par la France, par la voix de l'Élysée et du président Macron. Ce qui aurait été un vrai coup dur pour Israël. Comme par hasard, cette réunion a été reportée, parce que du coup, il est très compliqué de la tenir vu les conditions. Et en faisant tout cela, on peut aussi imaginer une arrière-pensée politique. Netanyahou sait que ça le maintient en pouvoir. Comme l'écrit Neo Passenger à l'instant dans le chat, il a complètement raison. Netanyahou est un homme de pouvoir qui sait que le jour où il ne sera plus au pouvoir, va être poursuivi par la justice israélienne parce qu'il a des grosses casseroles au cul. Voilà. Et pour ne pas être jugé, le mieux, c'est encore de rester au pouvoir. Voilà. Trace de pneus, tu prends un Théo et puis la prochaine fois ce sera un Bandev, tu me casses les couilles en vrai. Voilà, tu prendras pour tous les autres, quoi. À tout à l'heure. La prochaine fois tu feras attention. Et donc ça, voilà, ça peut être aussi une arrière-pensée politique. Parce que en chef de guerre, il réunit d'abord une grosse partie d'Israéliens derrière lui. Et il compte sur la guerre pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Alors c'est plein d'éléments. Hein. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que c'était le bon moment pour Israël, quoi. Est-ce qu'Israël a signé le traité de non-prolifération? Je ne sais pas, Awin. Je vais aller voir. Je pense que non. Israël, traité de... Je pense que non. Israël est un pays qui a la bombe atomique. C'est un secret de Polichinelle, mais qui ne l'a jamais dit officiellement. Voilà, Israël n'a pas signé, n'a jamais signé ce traité de non-prolifération nucléaire. L'AIEA y est interdite d'inspection. Voilà. Donc là, la réponse est claire, quoi. Après, bon, Israël a la bombe atomique depuis longtemps. Voilà, Israël est un pays qui est en guerre depuis sa création, notamment avec les voisins arabes, confèrent toutes les guerres israélo-arabes. Remarquons qu'à ce jour, Israël n'a jamais utilisé la bombe atomique, quoi. Du coup, ça pose une autre question qui est importante pour essayer de comprendre ce qui se passe. Désolé, hein, je prends le temps sur les sujets comme ça. Excusez-moi. Parfois, les actualités sur lesquelles il est compliqué de trouver les infos, là, c'est l'inverse, évidemment. Là, on est submergé de références et d'articles. Ce qui est compliqué, c'est de trier, quoi. J'arrive. Puis après, on va lire les articles, de toute façon, c'est ce qu'on fait ici. Hein. J'essaie de répondre aussi honnêtement que je peux à vos questions, quoi. En fait, la question que je me pose, c'est avons-nous des éléments, parce qu'elle est centrale, avons-nous des éléments pour affirmer que l'Iran souhaite la disparition, la destruction de l'État d'Israël? Ce qui me semble être une question importante. À partir du moment où on a des éléments qui pourraient, ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, nous laisser penser que l'Iran souhaite détruire l'État d'Israël, le supprimer, dans ce cas-là, on imagine bien que c'est compliqué de laisser ce pays accéder à la bombe atomique, je pense, en tout cas du point de vue d'Israël, quoi. Alors on a une page Wikipédia qui semble assez complète, on va voir. L'avantage de Wiki, c'est qu'on a les sources entre les relations entre Iran et Israël. Alors, les relations avant la révolution chiite, enfin islamique, donc c'est des relations cordiales, notamment avec, avec la dynastie Pahlavi, quoi, jusqu'à la révolution iranienne. Voilà. Donc, de 48 à 79, de la création de l'État d'Israël à 79, Israël connaît des relations OK avec l'Iran. L'Iran des chats, quoi. L'Iran fut même le deuxième État à majorité musulmane après la Turquie à reconnaître l'État d'Israël. Ce qui est assez fou, quoi. L'Iran et Israël développèrent des liens étroits en matière militaire durant cette période. Voilà. Et puis intervient la révolution islamique sous Khomeini. Bon, les gens qui se moquent d'un article Wikipédia, c'est les gens qui ne savent pas comment marche Wikipédia. Pour les articles les plus exposés, ceux les plus lus, voilà, il y a énormément de gens qui contrôlent les informations qui y sont mises, avec énormément de sources, avec des gens qui donnent énormément de temps bénévolement pour la qualité de ces informations. Alors, autant sur des petits articles, parfois on tombe sur les dingueries, autant sur les gros articles très lus comme celui-ci, tout est vérifié un milliard de fois, quoi. Et en plus, on a les sources en bas, et donc si on n'est pas d'accord, eh bien, on va voir les sources. Et on essaie de décortiquer et éventuellement de faire changer la page. Alors, révolution de 79. Le premier à déclarer Israël ennemi de l'islam fut l'ayatollah Khomeini. Non, ça c'est après ça. Ouais, ça c'est après. Durant la seconde période Pahlavi. Khomeini avant qu'il arrive au pouvoir, quoi. Après la seconde phase de la révolution iranienne de 79. Avec l'instauration de la République islamique, l'Iran rejeta sa reconnaissance de l'État Israël, puisque l'Iran avait reconnu Israël avant, et c'est ça toute relation officielle avec lui. Ok. Dans les années 80, sous les ordres de Khomeini, toujours, des Pasdaran sont envoyés au Liban, alors en guerre contre Israël, pour former des milices chiites afin qu'ils affrontent les troupes israéliennes. Le Hezbollah, qui est un mouvement pro-iranien, est créé d'ailleurs à Téhéran, en Iran. Avec l'appui de 500 gardiens de la révolution islamique, cette milice affrontera militairement Israël à de nombreuses reprises lors des guerres au Liban. Donc l'un des premiers mouvements anti-Israël, qui est le Hezbollah, a été créé et financé par l'Iran. On commence à comprendre que les relations sont un peu tendues entre les deux pays, quoi. Ali Khamenei est le guide suprême élu en 89 après la mort de Khomeini. Hein, Ali Khamenei qui qualifie Israël de tumeur cancéreuse en 2009. Précisant dans ce livre intitulé Palestine que Israël devait être supprimé, que cette tumeur cancéreuse devait être supprimée. On parle du chef de l'Iran, de guide suprême, et assurer le soutien de l'Iran à tout groupe qui combattrait ce pays. Fin novembre 2013, Ali Khamenei, donc le chef de l'Iran, déclare qu'Israël est voué à la disparition. En juillet 2014, il précise sa pensée. Il explique souhaiter cette disparition grâce à un référendum auquel participeraient à la fois les Arabes et les Juifs qui vivent en Israël. Et en précisant, la seule solution, c'est l'anéantissement de l'État d'Israël, mais cela ne veut pas dire la destruction des Juifs de cette raison. Lors de l'élection du président réformateur iranien qui a soulevé beaucoup d'espoir, Mohamed Khatami en 1997, certains pensèrent que l'Iran et Israël allaient un peu apaiser leurs relations, quoi. Au début, cette élection ne sembla pas grand-chose. Khatami traita Israël d'État parasite et illégal, par exemple. Cependant, l'Iran dit faire la différence entre le sionisme, le projet politique, qui a abouti à la création de l'État d'Israël, et le judaïsme, la religion. En effet, Khatami déclare par exemple que les Juifs seraient en sécurité en Iran et que toutes les minorités religieuses seraient protégées. 2005, nouveau guide pour l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Voilà, donc lui, c'est considéré comme plus radical, quoi. Voilà. Et Ahmadinejad, en 2005, donne une interview où il dit... Je découvre le texte avec vous. Bon, bah, dans une interview, il remet en question la Shoah, quoi, les camps de concentration. Certains pays européens persistent à dire que durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler brûla des millions de juifs et les mit dans les camps de concentration. Donc on a Ahmadinejad qui remet en cause la Shoah, quoi. En 2005, Ahmadinejad fait un autre discours à propos du droit à l'existence d'Israël. Voilà. Il déclare notamment qu'il adhérait aux propos de Khomeini, selon lesquels ce régime qui occupe Jérusalem doit disparaître de la page du temps. Formule qui fut généralement rapportée en Occident, traduite du persan, sous la forme « Israël doit être rayé de la carte ». Mais attention aux traductions, nous dit l'article. Une controverse sur la justesse de la traduction a d'ailleurs vu le jour. Balayer des pages du temps, balayer des pages de l'histoire, ou rayer la carte, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous. Bon, après, il y a passage sur le financement du Hamas et du Hezbollah par l'Iran. Quoi. Intéressant, hein? Intéressant. Donc la question de savoir si l'Iran, vous voyez, à la question de savoir si l'Iran a plusieurs fois et de façon constante déclaré qu'il souhaitait la destruction d'Israël en tant que pays, en tant que nation et en tant qu'État, elle n'apparaît pas de façon très claire dans cet article. Même si le pays est en guerre avec Israël depuis 79, quoi. Notamment par les groupes armés qu'il a créés et ou financés, quoi. Continuons maintenant. Avec les frappes iraniennes contre Israël. Merci Avion 721. Voici l'article. Israël subit les premières contre-attaques de l'Iran. Encore une fois, c'est un papier qui est paru hier, donc les informations ont un peu évolué depuis, quoi. Bah alors, tu reviens petit article. Ah voilà. C'est bon. Les attaques lancées par Téhéran ont touché plusieurs villes israéliennes, ont fait 16 morts et plus de 500 blessés. Le bilan, il a sûrement évolué, quoi. Donc là, on a encore, comme hier, on a vu les articles, on décrit l'inquiétude des Israéliens, le bruit des sirènes, le fait qu'on se retranche dans des abris. Hein, la plupart des attaques sont stoppées, certaines passent, elles sont alors dévastatrices. 16 personnes ont été tuées en 3 jours, plus de 500 blessés. La parole. Qui est le monsieur qui parle? C'est intéressant. C'est des paroles d'Israéliens, quoi. Voilà, la parole d'un jeune Israélien recueilli par Le Monde. Je suis sous le choc. C'est quand on voit les dégâts qu'on se rend vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Témoigne un jeune homme. Comme si, après avoir détruit en majeure partie la bande de Gaza, ou en lançant une attaque fulgurante contre l'Iran, Israël se découvrait de nouveau vulnérable. Je n'approuve pas ce que l'armée fait à Gaza, dit ce jeune Israélien, même après les horreurs du 7 octobre. Mais l'Iran, c'est différent. C'est une menace vraiment existentielle. Il y a une horloge à Téhéran qui annonce la destruction d'Israël. On ne peut pas annoncer ce genre de choses. Reprend le jeune homme, faisant allusion au cadran installé en 2017 sur la place Palestine de Téhéran, qui prédit la fin de l'État hébreu pour 2040. Alors, fin de l'État, fin du pays, fin de la nation, vous voyez, tout à l'heure, on a vu que l'article s'interrogeait sur les mots, quoi. En même temps, quand tu veux détruire un État, comment tu détruis un État sans t'en prendre à la population? C'est la question qu'on peut se poser. Le massacre perpétré par le Hamas a changé la vision d'Israël. Il y a un consensus dans le pays depuis le 7 octobre. Ça a beaucoup radicalisé une partie importante de la population israélienne. Hein, vous savez, de tout temps, la société israélienne a été traversée par des divisions sur la question des pays voisins, sur la question palestinienne. Il y a des Israéliens qui, depuis toujours, ont été pacifistes, ont toujours été pour tendre la main aux Palestiniens. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont été pour la création d'un État palestinien. Mais les attentats du Hamas ont radicalisé une partie importante de la population. Il y a un consensus dans le pays depuis le 7 octobre. Si des régimes ou des organisations terroristes disent ouvertement qu'ils vont détruire Israël et commencent à agir en ce sens, on n'a plus le temps pour une politique du type attendre et observer, dit un journaliste israélien. En attaquant l'Iran, l'État hébreu tente de réduire, voire d'éliminer une double menace, celle du programme nucléaire iranien et celle du développement des missiles balistiques. Évidemment, pour porter une charge nucléaire, il faut un missile, quoi. Selon de hauts responsables cités par la presse israélienne, la République islamique projetait de fabriquer 8000 missiles pour 2026, 20 000 dans 2 ans. Au jour de l'attaque israélienne, Téhéran détenait quelques 2000 missiles. Beaucoup ont été neutralisés. Les quelques centaines tirées sont des modèles transportant 200 à 500 kg d'explosifs. Selon des sources citées par des journalistes israéliens, l'Iran n'a pas encore tiré le Koram Shar, missile balistique de moyenne portée, dont la version la plus récente porte une charge de 1500 kg d'explosifs. Excusez-moi, je fais une petite pause sur l'historique de Player Unus, là, qui est très en forme ce matin. Ok. Mon Player Unus, dont j'apprécie la présence tous les matins. Merci d'être là. Tu prends 600 secondes parce que tu me casses les couilles. Attends, va jouer avec des IA et reviens quand tu seras un peu apaisé. Cette guerre ne fait que commencer, et le pire est peut-être à venir. Alors, je ne sais pas faire grand-chose, mais moi, je lis très vite et je lis tous les commentaires. Donc, parfois, quand je vois un 10e commentaire de la même personne qui pense que je n'ai pas lu les 9 commentaires auparavant, à un moment, je dis « Bon, tu ne participes pas positivement au débat, ça ne m'intéresse pas. » Et voilà, la personne dit « Ah bah tiens, on m'a sanctionné sur un message. » Non, tu viens d'être sanctionné sur tes 10 derniers messages. Voilà. Voilà. Et je le fais pas parce que ça m'énerve moi, j'en ai rien à foutre, je suis habitué moi. Mais je le fais parce que je ne trouve que ça crée une mauvaise ambiance dans le chat, dans ce qu'on essaie de faire ici, c'est de comprendre des choses extrêmement complexes, en avouant qu'on ne sait pas tout, en avouant qu'on peut se tromper dans l'interprétation. Voilà. Et les gens qui sont catégoriques, qui affirment qu'ils savent, eux, qu'ils ont raison, qu'ils connaissent, eux, les bonnes sources d'information, qu'ils connaissent la vérité, eux, sur tel ou tel sujet, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Vous n'aidez vraiment pas à ce qu'on essaie de faire ici. Si vous voulez militer, si vous voulez affirmer des choses, voilà, rejoignez un parti politique, faites, je sais pas, allez faire des trucs. Mais ça n'est pas ce que nous faisons ici, quoi. Voilà. Donc, je le fais pas pour moi, je le fais parce qu'en fait, vous ne vous inscrivez pas dans ce qu'on essaie de faire ici et vous venez polluer les efforts des autres viewers. Voilà. Et là, c'est un théo, hein, c'est 600 secondes, c'est juste histoire d'aller prendre un thé. Mais voilà. Après, sur des sujets comme ça, c'est inévitable. Inévitable, oui, mais sauf que l'immense majorité du chat se comporte de façon plutôt constructive, justement. Donc si 90% peuvent le faire, les 10% qui restent peuvent faire un effort. Voilà. Alors, tiens, il y a un expert américain en non-prolifération nucléaire en géopolitique qui, lui, estime que l'objectif d'Israël, c'est de faire tomber le régime iranien. Okay. Il s'appelle Jeffrey Lewis. Déjà, il dit qu'il ne croit pas que le programme nucléaire iranien soit significativement endommagé. J'ai lu plein de papiers que je ne vous ai pas mis de côté parce que ça fait trop, qui disent que, bon, bah, évidemment, c'est très spectaculaire, on a des missiles et des bombes israéliennes qui tapent, mais beaucoup en surface. Or, il y a une forte chance que l'essentiel de ces programmes de recherche nucléaire iranien soit sous terre, soit enterré, quoi. Il n'est pas certain que... La capacité de l'Iran à continuer ses recherches sur le nucléaire militaire soit réellement abîmé, endommagé. Quoi. J'ai lu plein de papiers qui disaient ça. Merci Professional Sun, Mimil, merci beaucoup. Lui, cet expert, il le pense aussi. Je ne crois pas que le programme nucléaire iranien soit significativement endommagé. Israël a été incapable de détruire les installations profondément enfouies dont dispose l'Iran à Natanz ou Ispahan. Voilà. L'usine d'enrichissement de Fordo n'a pas été touchée. Israël a détruit des bâtiments en surface, a perturbé le courant à Natanz, a tué des scientifiques, bon, ça, ça joue bien sûr. Mais il y a encore des centaines de kilogrammes d'uranium enrichi, des milliers de centrifugeuses qui sont sans doute entreposées en toute sécurité sous terre. À moins qu'Israël ne tue tous les scientifiques et détruise toutes ces centrifugeuses et tout le stock d'uranium, on pourra dire que le programme nucléaire iranien a été retardé, mais pas éliminé. Israël affirme que cette guerre était préventive, ça c'est la question qui nous intéresse tous, parce que la menace nucléaire était imminente. De combien de temps disposait l'Iran pour se fabriquer une bombe ? L'Iran avait, comme le disait le Premier ministre israélien Netanyahou, un an ou quelques mois pour se doter d'une bombe. C'est une préoccupation, mais on ne peut pas dire que c'était imminent, dit cet expert. Cela fait 15 ans que l'Iran est à quelques mois de la bombe nucléaire. Bon, moi, hier, j'ai dit, d'ailleurs, je me suis trompé, parce que hier, en évoquant comme ça rapidement le sujet, j'ai dit, alors Israël nous dit que l'Iran était sur le point de détenir la bombe atomique, et j'ai dit hier, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste, j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'entends cette phrase. Et ça fait 30 ans que je présente des JT où je dis l'Iran serait sur le point de se doter de l'arme nucléaire. Alors j'ai vérifié, c'est pas 30 ans, c'est un peu plus de 20 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans que on nous dit que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme nucléaire. J'ai même reçu un mail long comme un jour sans pain d'un viewer, voilà, sur mon mail pro, d'une page, me sommant d'ailleurs de changer la ligne éditoriale de ma revue de presse, puisqu'hier, effectivement, j'avais lu des articles de personnes qui s'interrogent sur le fait, est-ce qu'on est sûr que l'Iran était sur le point de se doter de l'arme nucléaire, alors qu'on le dit depuis très très longtemps. Et donc, tiens, juste pour rire, je vais vous lire la fin du mail. Voilà. Comme la personne, si elle est dans le chat, elle comprendra pourquoi je lui réponds pas, d'ailleurs. Parce qu'à un moment, ça va aller, quoi. Voilà. Bon, je cite pas la personne, bien sûr, je la protège. Voilà. Le mail est très gentil par ailleurs. Je vous apprécie énormément. Je continuerai à regarder vos lives. J'espère que vous répondrez à mon mail ou du moins que vous comprendrez ou accepterez ma remarque et ma proposition de rectification et d'amélioration. Bon, hier, on était 5000 non-stop sur la revue de presse. Vous imaginez si les 5000 personnes m'envoient un mail pour me demander d'apprendre à mieux informer et corriger ma revue de presse en citant plutôt tel journal que tel autre. En l'occurrence, la personne me demandait un journal plus à droite, plus pro-israélien, hein, parce que le mail était assez transparent, ça va être un enfer, je veux pas avoir le temps de lire tous vos mails. Quoi. Donc effectivement, c'est pas 30 ans, c'est plutôt 22, où on annonce que l'Iran est sur le point de se doter de l'arme atomique. Quoi. Et l'expert le rappelle, ça. L'expert le rappelle. Voilà. Ça fait 15 ans que l'Iran est à quelques mois de la bombe nucléaire. Alors pourquoi ces frappes maintenant ? Il est pas mal cette interview-là. Ça répond à plein de nos questions. Ce qu'Israël a réellement ciblé, c'était le leadership militaire du pays et sa capacité à riposter avec des missiles. Pour Israël, le sujet n'est pas tant les armes nucléaires que le régime. C'est une opération de décapitation. Donc en fait, cet expert, il nous dit, en fait, c'est pas tellement le programme de recherche nucléaire militaire iranien qui est visé. En fait, il nous dit, ça fait un moment qu'ils sont sur le point. C'est le régime. C'est le régime iranien. C'est le régime islamique des mollahs et théocratique. Les frappes sur les sites nucléaires sont comme une feuille de vigne déposée sur les véritables motivations d'Israël, faire tomber le régime. Ce qui a rendu cette attaque imminente, ce sont les calculs politiques du gouvernement israélien. Netanyahou est isolé depuis le conflit à Gaza. S'attaquer à l'Iran n'avait plus de coût réel pour sa réputation internationale. Bon, il était déjà très mal considéré. Le Premier ministre israélien devait attendre les négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Il devait y avoir une réunion dimanche dernier. Voilà. Et du coup, Netanyahou a dit « bon, j'ai rien à perdre de toute façon ». C'est le moment ou jamais. Plus l'affaiblissement de, des soutiens Hamas et, Hezbollah dont on a déjà parlé. Le chercheur a dit aussi, le pari d'Israël est risqué. Car si l'opération ne porte pas ses fruits et que le régime tient, il n'aura que peu d'incitation à ne pas terminer le programme d'armes nucléaires. Oh, ah oui, les Houthis aussi. Les Houthis sont soutenus par l'Iran ? Je l'ai plus, ça. Ils sont soutenus par l'Iran, les Houthis ? Je l'ai plus. Il n'aura que peu d'incitation à ne pas terminer le programme d'armes nucléaires. Oui, aussi. Imaginez le groupe de personnes qui débattent de ce sujet en Iran. Lors de leur prochaine réunion, les anciens membres ne seront pas là. Les nouveaux vont se demander pourquoi toutes ces personnes sont mortes. Ils vont se dire en substance, tous ceux qui ont pris la décision de ne pas aller jusqu'à l'arme nucléaire il y a 6 mois ont tous été assassinés, alors peut-être devrions-nous fabriquer les armes nucléaires.
Waouh !
Quelles ont été, selon vous, les conséquences du retrait de Donald Trump de l'accord de Vienne en 2018, le plan d'action global commun. L'abandon de l'accord sur les États-Unis par les États-Unis est à l'origine de tout, dit ce chercheur, qui est un chercheur américain. Pour ceux qui, aux États-Unis, visaient un changement de régime en Iran, comme l'a toujours souhaité Netanyahou, cet accord était mauvais car il levait les sanctions et replaçait l'Iran au sein de la communauté internationale. Le plus important était à leurs yeux de maintenir les sanctions plutôt que de résoudre le problème nucléaire. Voilà la racine du problème. Intéressant ça. Mais Opéra, mais tu n'es pas tout seul, on est tous dans cette... Je vais lire ton message parce qu'il est très important. Opéra écrit, dans le chat à l'instant, « Je t'avoue Samuel qu'à 33 ans, je n'arrive toujours pas à comprendre ces conflits, je m'informe tous les jours sur les réseaux sociaux, mais impossible pour ma petite personne de comprendre ces conflits, c'est trop compliqué pour moi. » Mais c'est compliqué pour nous tous. Et c'est compliqué y compris pour ces chercheurs. Tu vois bien que même ces chercheurs qui ont dédié leur vie, le mec est un spécialiste de la question de la prolifération des armes nucléaires, même pour les chercheurs qui ont dédié littéralement leur vie et passent leur journée à essayer de comprendre ce sujet, même eux, ils ne sont pas affirmatifs. Ils donnent des pistes d'explication. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, des sujets comme ça. Pour commencer à en cerner les mécaniques, il faut énormément de réflexion et de lecture en essayant de se protéger, merci Captain Fantastique, de la propagande des deux côtés, en essayant de se protéger des affirmations des uns et des autres, voilà, qui affirment ici dans le chat ou ailleurs, mais plutôt plus ailleurs qu'ici d'ailleurs, que eux détiennent la vérité et que voici le méchant et voici le gentil et c'est blanc et c'est noir et c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, paradoxalement, plus tu réfléchis à un sujet... Et plus il te semble compliqué. Un sujet n'est simple que quand tu ne travailles pas dessus. Donc tu me dis, Opéra, que tu fais l'effort d'essayer de t'informer tous les jours et que plus tu essaies de t'informer, plus c'est compliqué. C'est normal. Alors parfois, on arrive quand même... Alors attention, hein, faire ce constat, ce n'est pas dire on ne doit pas avoir d'avis. Parce que c'est pas parce que c'est extrêmement compliqué de se forger une opinion éclairée à la lumière d'informations les plus fiables possibles que cela doit nous dédouaner d'avoir un avis. Il y a des sujets sur lesquels, et c'est là qu'interviennent un peu les valeurs, finalement vos valeurs, salut le Kit 13, où à un moment vous allez vous dire à la lumière de ce que vous avez compris, lu, entendu, regardé sur un sujet, vous allez dire ben moi je pense que ça c'est juste et ça ne l'est pas, mais toujours avec cette modestie intellectuelle, cette prudence qui fait que c'est votre avis et que vous pouvez le porter, vous pouvez l'affirmer. Quand par exemple je vous dis moi dans ces streams, sortant de ma réserve, que je n'ai aucune sympathie pour les idées d'extrême droite, c'est une affirmation dont je suis prêt à débattre, qui est le fruit de mon cheminement personnel, intellectuel et de valeur depuis que je suis apparu sur cette terre. Mais je veux bien en discuter. Hein? Ça ne veut pas dire que je pense que ceux qui ne pensent pas comme moi ont raison. C'est juste que je veux bien en parler avec eux. Continuons. Continuons avec des infos plus proches, plus fraîches encore, puisque le Parisien est sorti ce matin. Et comme on prend le temps ce matin, on va pouvoir aussi aller voir la dernière édition du Monde, qui va peut-être nous donner de nouvelles infos. Bon, pas trop quand même, parce que le Monde, normalement, je vous lis demain, parce que demain, il y aura une revue de presse aussi. La question que pose le Parisien en sa une, c'est celle-là, hein. Est-ce que le régime iranien peut s'écrouler ? Lisons l'édito de Jean-Baptiste Isaac. Le régime des Mollahs. Quelqu'un me disait, mais c'est quoi un régime théocratique ? Un régime théocratique, c'est un régime où c'est la religion qui dicte le politique. Où c'est la religion qui dicte les règles de la politique et les règles de la société. Et c'est aussi, on a précisé cette définition hier en parlant, c'est aussi un régime politique où ce sont les religieux qui sont au pouvoir. Ça, c'est la définition d'un régime théocratique comme l'Iran. Donc, une fois cette parenthèse refermée, qu'écrit cet éditorialiste dans Le Parisien ? Le régime des Mollahs tremble, ébranlé par les frappes des avions de chasse israéliens. De par le monde, la diaspora iranienne retient son souffle. En France, ils sont des dizaines de milliers à espérer que la théocratie ONI s'effondre après des décennies de répression. À la mort de Khomeini en 89, ils avaient guetté la chute de la République islamique en vain. Il y a beaucoup d'Iraniens qui sont opposés à ce régime, bien sûr. Cette vie d'exilé connecté en permanence au soubresaut de son pays natal, aux arrestations, aux exécutions, aux manifestations, est magnifiquement racontée par Ayla Navidi dans sa pièce 4211 km, récompensée par deux Molières. La dramaturge met en scène son histoire de fille d'opposants politiques. Ses parents, professeurs de philosophie et journalistes, ont fui l'Iran en 79, comme beaucoup d'Iraniens. Ils n'ont pas voulu acquérir la nationalité française, vivant avec l'espoir tenace de revenir un jour en Iran. Elle-même, née en France, ne s'est jamais rendue dans ce pays. Cela reste un rêve, un fantasme, dit-elle. Elle a su mettre plusieurs et ne pas vouloir changer, porte la culture du pays, de ses parents, sa musique, sa langue, ses coutumes. Bon là, c'est un petit édito qui ne répond pas à cette question, mais qui nous parle de la diaspora iranienne qui suit tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ok. L'article. C'est un débat intéressant, David Asseloff. Quelle différence entre un régime théocratique comme l'Iran et messianique comme les dirigeants actuels d'Israël, certains ces dernières années, à la lumière de l'évolution politique, du paysage politique israélien se décalant de plus en plus à droite, vers l'extrême droite, mouvement que Israël n'est pas le seul pays à connaître, vous le savez, hein, y compris au plus près de nous, on se demandait si Israël n'était pas en train de devenir un État théocratique. Hein. Alors, il y a quand même des différences radicales. Jusqu'à preuve du contraire, Israël n'est pas dirigé par des religieux. C'est-à-dire que le Premier ministre, le président dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas des religieux. Donc, c'est déjà une énorme différence, quoi. Et même si, évidemment, la religion juive est extrêmement présente dans le quotidien d'Israël et influence énormément sur la vie sociale et politique du pays, il ne détermine pas tout. Et dire le contraire dans le chat, c'est de ne pas avoir réfléchi au sujet, quoi. Vous ne pouvez pas comparer l'emprise de la religion en Iran et en Israël, qui est pourtant un pays très religieux, en tout cas pour les juifs qui sont religieux. Parce que rappelons qu'en Israël, il n'y a pas que des juifs, et que parmi tous les juifs ne sont pas religieux. Voilà. En Iran, tu n'as pas le choix. Hein. Ok ? Continuons. Une explosion retentit. Bon, c'est de la mise en perspective, c'est pas ce qui nous intéresse. Même s'il est. C'est bien que le journaliste essaie de nous expliquer ce qui se passe. Propos de Netanyahou, Premier ministre israélien, le jour de votre libération est proche, il s'adresse aux Iraniens. Nous ne nous battons pas contre vous, nous nous battons contre la dictature brutale qui vous opprime depuis 46 ans. Voilà. Le Premier ministre israélien qui évoque désormais publiquement l'objectif d'abattre le guide suprême, c'est chaud, Ali Khamenei. En attendant, Tel Aviv bombarde des bases militaires, des sites de lancement de missiles, des raffineries, des champs gaziers, incendies, coupures de production se multiplient. En quelques jours, Israël a éliminé le chef des renseignements iraniens, une vingtaine de hauts gradés, 9 scientifiques spécialistes du nucléaire. On voit bien que cette campagne dépasse le cadre d'une opération visant à neutraliser une menace nucléaire, dit Thierry Coville, qui est un chercheur à l'IRIS. La stratégie d'Israël de semer la panique, de désorganiser le pays et de créer le chaos. Cauchemar, dit une Iranienne de 36 ans, qui vit la guerre à distance depuis la France. C'est ce qu'elle parvient à joindre lui raconte la panique, les pénuries, les files d'attente interminables dans les stations-service et ces produits qui disparaissent des étals des supermarchés. Un gouffre s'est creusé entre la population iranienne et sa caste dirigeante, notoirement corrompue. Ali Khamenei, guide suprême de 86 ans, semble figé loin des aspirations modernes d'une partie de sa société. Rappelons, en 2022, on avait beaucoup parlé ici, en 2022, la police des mœurs avait interpellé une jeune femme, Mahsa Amini, pour avoir mal mis son voile. C'est ça l'Iran. Hein. La Kurde de 22 ans était morte en rétention, et ça avait déclenché plein de manifestations. Qui, à l'époque, s'était-on dit, pouvait peut-être faire bouger le régime iranien, et ça n'a pas été le cas. La révolte s'était étendue au cri de « femme, vie, liberté », je pense que vous vous souvenez de ça. Après le 7 octobre 2023, les attentats du Hamas, Israël décapite les uns après les autres les vassaux de Téhéran au Moyen-Orient, le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza. En Syrie, une révolution emporte le régime de Bachar al-Assad. Voilà. La communauté internationale, ces derniers jours, abandonne en grande partie Téhéran à son sort. Depuis des années déjà, les Iraniens sont contraints de vivre sous une économie lardée de sanctions occidentales, le programme nucléaire iranien, un chômage de masse, une hausse des prix de 30%. Le problème, c'est que la guerre risque de faire taire les contestations plutôt que les encourager, redoute une sociologue franco-iranienne. Parce que ça, c'est intéressant, parce que la question qu'on se pose là, c'est est-ce que ce régime iranien peut chuter ? Et le Parisien écrit « Le régime des Mollahs a puisé sa résilience en survivant aux crises. En interne, la répression demeure féroce. Téhéran continue d'exécuter de prétendus espions de l'État hébreu. Le pouvoir a annoncé ce lundi la pendaison de l'un d'eux. Les propagandes se mettent en marche, les autorités promettent la plus grande attaque de missiles de l'histoire jamais lancée sur le sol israélien. Dès vendredi, cette administration tentaculaire remplaçait au pied levé les hauts gradés balayés sous le feu israélien, martyrs comme on dit là-bas. L'État restreint l'accès à Internet. Les Mollahs n'ont jamais eu le soutien du peuple, ils sont au pouvoir grâce à l'argent, grâce à la religion, grâce à la répression, condamne Mahmoud Mourad Rani, neveu rebelle de Khamenei en exil en France. Voilà. Ouais, la chute du régime iranien, le journaliste en doute, quoi. Voilà. Sujet intéressant, mais qu'on aura l'occasion d'évoquer dans les prochains jours. Est-ce que Netanyahou va réussir à faire rentrer les États-Unis dans la guerre ? Ce qui sera un game changer, bien sûr, quoi. J'en doute, mais bon. C'est Trump. Je vous lis un petit peu, je refais une petite pause. Je vous lis. Oui, je crois qu'il y a eu des mouvements, effectivement. John me le dit, mais je l'ai vu également. Vu la flotte d'avions ravitailleurs américains qui a traversé l'Atlantique, il y a quand même une possibilité. Axel Fuego nous écrit dans le chat, les Iraniens méritent mieux, mais l'avenir des Iraniens appartient aux Iraniens et rien d'autre qu'aux Iraniens. Merci le lobby des courges, joli pseudo par ailleurs. Et Titus Pam a raison, GG au modo, hein. je vous mets à rude épreuve ici, mais en ce moment, voilà, j'ai voulu refaire de la revue de presse de façon la plus régulière possible. Bon, les sujets sont un peu compliqués en ce moment. Merci les modos, vous êtes formidables. Quelque chose me dit qu'on va continuer à en parler dans les prochains jours d'ailleurs. pour l'Iran. Est-ce qu'on va faire un petit quelque chose que je fais jamais, c'est qu'on va voir la prochaine édition du Monde, celle qui est sortie en début d'après-midi là, voilà, puisque c'est un journal de l'après-midi. Voilà, celle dont je vais vous parler demain matin. Ah, je l'ai pas encore, 13h. Ah, c'est dans 6 minutes. Bon, c'est dans 6 minutes. C'est dans 6 minutes, c'est à 13h. OK. Merci Coco. Et bisous aux petits. Bonjour Sam, tu es régulièrement face à ce type d'actualité, comment tu réagis, comment tu prends du recul par rapport à tout ça, demande Mao. Alors en fait, moi j'ai longtemps pensé que j'étais un peu... Vous savez quand on dit que les chirurgiens, ils voient plus le sang, ils voient plus la chair dans laquelle ils coupent, les chirurgiens, ils sont habitués quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce que du coup ça leur permet d'avoir un geste le plus professionnel possible bien sûr. Alors on dit que les journalistes aussi, ben ils s'habituent. Ils s'habituent à ce déferlement quotidien de mauvaises nouvelles auxquelles ils sont confrontés en première ligne. Et moi, j'ai longtemps pensé en fait que ça m'affectait, moins ou plus. Et en fait, non. Je ne pense pas. Voilà. Donc, je pense que je porte ça avec moi tout le temps. Et que c'est là où le jeu vidéo est intéressant parce que il me permet aussi de penser à autre chose, quoi. Voilà. Et après, j'essaie aussi de garder une certaine distance par rapport à ces actualités pour mettre le moins d'affect et d'émotion quand c'est possible dans les sujets pour que ça ne vienne pas troubler la qualité des infos que j'essaie de vous dispenser quoi. Déjà que c'est compliqué de trouver des informations fiables au regard de tous les filtres que nous possédons nous tous, vous, moi, les médias que nous consommons, filtres conscients ou inconscients. Si en plus on met de l'émotion là-dedans, ça devient impossible. Quoi. C'est sûr que la vie de est moins morose en jouant aux jeux vidéo. Oui, Vampy, je pense. Et c'est vrai la théorie du mort au kilomètre. C'est intéressant ce que dit Zetriskel. La théorie du mort au kilomètre, c'est un vieux truc dont on parle dans les écoles de journalisme, mais dont on ne parle plus d'ailleurs parce qu'elle n'est plus tellement vraie, justement. C'est de dire, votre lecteur, auditeur, téléspectateur, il s'intéresse plus à un mort qui est mort à 1 km de vous qu'à 10 morts à 10 km, qu'à 100 morts à 100 km, etc. Enfin, grosso modo, quoi. Voilà, il peut y avoir un nombre de morts importants, mais si à l'autre point du globe, ça vous touchera moins qu'un mort tout près de vous. Voilà. Alors, c'est en partie vrai, ça dépend aussi de la conscience politique de la personne. Ça dépend de... Il y a des gens ici, par exemple, qui peuvent m'écrire noir sur blanc dans le chat. Moi, l'actualité internationale, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que la France qui m'intéresse. Et encore la France, même pas. C'est la vie de ma région ou de ma ville. Le reste, je m'en bats les couilles. Peu importe. Voilà. Et donc, effectivement, ils vont être assez peu touchés par ce qui arrive à leurs frères et sœurs humains à des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres. Puis il y a d'autres gens. Et c'est aussi une question de valeur et de conscience politique qui peuvent être émus et touchés par le sort de personnes qui vivent à des milliers de kilomètres. Voilà. Et là, c'est aussi une question de valeur et de choix. Voilà. La proximité n'est pas que géographique, exactement. On parlait de l'aspect positif des jeux vidéo pour se changer les idées. Il y a Bonshiva qui nous dit « J'ai 56 ans, les jeux m'ont aidé à sortir d'une dépression après le Covid en me permettant d'évoluer dans un autre univers que le nôtre. » Je trouve ça très intéressant. Alors, passons à une autre actualité, même si évidemment dès demain on revient à l'Iran et Israël. On y a consacré un peu plus d'une heure et quart ce matin. Parlons des réseaux sociaux. Et des dangers des réseaux sociaux pour les jeunes. Voilà, c'est un projet qui s'appliquera ou pas, on verra, de l'exécutif actuel, notamment du président Macron. Et c'est la une de La Croix ce matin, je vous laisse regarder. Voilà. Réseaux sociaux, tout le mal qu'ils font aux jeunes. Donc La Croix a choisi son camp et qui nous rappelle qu'Emmanuel Macron promet d'interdire...
Il fait chaud ici.
D'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, de plus en plus responsables du mal-être des jeunes. Oui, on est en vue de presse à peu près jusqu'à... Je peux aller jusqu'à... Jusqu'à quelle heure ? À quelle heure j'ai mon taxi ? Non, au moins jusqu'à 14h. On est large. responsable du mal-être des jeunes. Emmanuel Macron donc promet d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans prochainement. On va se pencher sur ce texte. Oui, mais la loi ne s'applique pas identifiant de troubleurs. Il y a quelqu'un qui nous dit, on rappelle qu'ils sont interdits au moins de 13 ans déjà, mais je crois que cette loi qui a été votée ne s'applique pas. On va voir ça dans le détail. En France, une loi le prévoit depuis 2023. Bim. Mais reste suspendue à la validation de l'Union européenne. Alors, a priori, peut-être que les décrets d'application de cette loi n'ont pas été pris. Les réseaux sociaux sont de plus en plus responsables du mal-être des jeunes, bien que le consensus scientifique ne soit pas total sur le sujet. On sent déjà que le dossier est ouvert, vous voyez ? C'est pas la Croix affirme que... déjà, la Croix, très très tôt, nous dit que, ok, les réseaux sociaux sont accusés du mal-être des jeunes, mais que le consensus scientifique, que les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Alastair Hartley vient d'offrir non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, ni sept, ni huit, ni neuf, mais 10 abonnements à la communauté. Merci Alastair Hartley. Merci beaucoup de ton soutien. J'espère que tu vas bien. Lisons. Réseaux sociaux et santé mentale, ce que dit vraiment la science, c'est intéressant. Même si le rôle des réseaux sociaux dans la dégradation de la santé mentale des jeunes reste difficile à établir avec précision, les signaux d'alarme quand même se multiplient. Après, beaucoup vont s'arrêter au titre et au sous-titre de l'information. Ah ben, s'ils sont paresseux, Baptard, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'essaie de zoomer, je suis pas très doué. Alors que la santé mentale des adolescents se dégrade depuis une décennie et que les troubles de l'anxiété touchent désormais en France 45% d'entre eux, 45% des ados touchés par les troubles de l'anxiété, ok. Les réseaux sociaux sont presque systématiquement pointés du doigt. Par les parents, par les soignants, par les éducateurs, mais aussi au plus haut niveau de l'État, puisqu'Emmanuel Macron a fait de l'interdiction de ces plateformes, de ces réseaux sociaux au moins de 15 ans, une priorité et promet qu'elle sera effective dans quelques mois. Mais quel rôle jouent ces réseaux sociaux, ces plateformes, dans la dégradation du bien-être mental des plus jeunes ? Aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure en France, le sujet fait l'objet ces temps-ci d'une controverse scientifique. D'un côté, certains chercheurs tirent la sonnette d'alarme, à l'instar de l'Américain Jonathan Haidt. Pour eux, l'augmentation en flèche des chiffres sur l'anxiété, sur la dépression, sur l'automutilation des jeunes occidentaux à partir des années 2011-2012 est intimement liée à l'essor des réseaux sociaux à la même époque, Facebook créé en 2004, Instagram en 2010. Ok. Une autre partie de la communauté scientifique se veut moins catégorique. Ces chercheurs pointent un risque de confusion entre corrélation et causalité et redoutent qu'une trop grande focalisation sur les réseaux sociaux amène les gouvernements à se dédouaner d'une part de leurs responsabilités. On sait que les usages les plus problématiques sont en tendance largement expliqués par les inégalités sociales. La faculté pour des enfants à parler de contenus choquants qu'ils ont vus en ligne est très inégalement répartie socialement. De même que la possibilité pour eux d'avoir les activités périscolaires qui leur permettent de s'éloigner justement des écrans. Donc certains chercheurs disent attention parce qu'en ne voulant que dénoncer les réseaux sociaux, vous oubliez d'autres raisons et notamment sociales. C'est notamment ce que dit le psychiatre français Serge Tisseron. Qui justement, lui, s'est exprimé dans la fameuse commission de députés qui a entendu pas mal de gens ces derniers temps, notamment des influenceurs, vous le savez, des créateurs de contenu, déterminer cette commission de députés, de déterminer si TikTok menace la santé des plus jeunes. Salut, PlayerUnus, bon retour parmi nous. Pendant plus de 2 heures, ce jour-là, 3 scientifiques avaient été entendus par les députés de cette commission qui devrait remettre ses travaux à la rentrée. Et sous-entendu, l'audition illustrait à elle seule l'absence de consensus parmi les scientifiques sur ce sujet. D'un côté, vous avez une pédiatre, Sylvie Duosica, fondatrice du collectif Surexposition Écran, qui insiste sur l'urgence de la situation, s'appuyant sur de nombreuses études américaines, britanniques, néerlandaises, quelques-unes françaises, faisant état d'associations quasi constantes entre utilisation des réseaux sociaux et mal-être. De l'autre côté, Serge Tisseron, psychiatre, qui est assez brillant aussi, et Grégoire Borst, chercheur en psychologie du développement, eux pointent le manque d'études longitudinales et soulignent qu'en science, corrélation ne veut pas dire causalité. Salut, Chaka Sativa, j'essaierai de répondre à ta question tout à l'heure sur les enfants. Qui de la poule ou de l'œuf ? C'est aussi la question que se pose Karine Chevreul, professeure de santé publique. Les jeunes qui passent plus de 5 heures par jour devant les écrans, les jeunes qui passent plus de 5 heures par jour devant les écrans ont deux fois plus de risques que les autres de développer des troubles dépressifs modérés à sévères. Mais est-ce parce qu'un adolescent ne va pas bien qu'il ne sort pas et donc qu'il passe pas beaucoup de, qu'il passe beaucoup de temps sur son écran, voilà, ou l'inverse? Est-ce que c'est le temps passé sur les réseaux sociaux qui provoque le mal-être, ou est-ce que c'est le mal-être qui fait qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Question de scientifique. Pour trouver des relations de causalité, il faut du suivi dans le temps et pour l'instant, on manque de recul, dit-elle. Mais d'ici quelques années, j'en suis certaine, on aura éclairci cette question. Karine Chevreul n'a aucun doute sur le fait que les écrans jouent un rôle dans la dégradation de la santé mentale des ados, mais elle ignore encore dans quelle proportion par rapport à d'autres facteurs. Donc elle dit quand même qu'il y a un sujet. La pression de la réussite scolaire, la pression de la réussite professionnelle, l'isolement ou les inquiétudes liées à l'écologie et à la politique. Autre incertitude, cet effet est-il davantage lié à ce que les plus jeunes font sur l'écran ou à tout ce qu'ils ne font pas quand ils sont sur les écrans ? Socialiser, se socialiser, faire du sport, dormir, lire. Alors s'il y a un point où les chercheurs sont d'accord, c'est sur le lien entre surexposition aux écrans et dégradation du sommeil. Donc là, c'est transparent. Il y a aussi des liens avec sédentarité et surpoids. Entre 2010 et 2018, les adolescents ont perdu en moyenne 20 minutes de sommeil par nuit en semaine, en 8 ans. C'est beaucoup. Tandis que l'usage du smartphone dans la chambre a explosé. Ça, c'est non. Un constat qui justifierait à lui seul des mesures restrictives pour certains scientifiques. D'autant qu'il y a là un cercle vicieux. Plus un jeune est fatigué, plus il va privilégier le lendemain des activités passives, comme le scrolling de vidéos sur TikTok, par exemple. Ce que je fais beaucoup, moi. Mais essentiellement aux toilettes. Donc c'est pas très long. Normalement. Un consensus scientifique se dégage aussi sur le lien entre les réseaux sociaux et la comparaison sociale ascendante, qui génère de l'anxiété sociale. La vie des autres semble bien plus excitante sur ces plateformes, qui sont le lieu par excellence de la construction de l'image parfaite. Hein. Moi-même, je suis assez exposé sur les réseaux sociaux, et même ici, vous ne voyez que le meilleur de moi. Enfin, le meilleur de moi, c'est déjà pas terrible, mais vous ne voyez que ce que je veux bien mettre en avant. Et c'est pas le pire de moi. Ce n'est pas mes moments de doute, c'est pas mes moments de fatigue, c'est pas mes moments de colère, c'est pas mes moments d'angoisse, c'est évidemment. Hein. Donc, sauf que ce n'est que l'image que vous avez de moi. Et la dynamique est délétère, explique un pédopsychiatre, Pierre-Emmanuel Rosier. La baisse de l'estime de soi entraîne une dégradation du sommeil, une diminution des performances académiques et sportives qui atteint encore plus l'estime de soi. Voilà. On est d'accord que Vorona Circus, tu me casses les bonbons en fait. Les modos, je fais quoi de ça là? Là aussi, hein, ça va prendre. Hein. On est trop patient, en fait, c'est avec certains. Tu pollues le chat, en fait. Hein. Les modos, dites-moi ce que j'en fais, moi. En vrai, là. Oui, bah oui, on est d'accord. C'est de la pollution, quoi. Casse-couille, en vrai. Non, mais franchement, une fois sur deux, ça n'a aucun intérêt. Oh là là. C'est chiant quand t'as 1% du chat qui vient foutre sa merde, là. Franchement. Donc, averti. C'est pour ta santé. Allez, tu prends 10 minutes. C'est pour ta santé aussi. Et tu te calmes un petit peu. Là, fais des efforts sur ton expression. Vraiment, c'est fatigant. Hein. Voilà. Ah là là. T'en as pas marre d'être tout seul, là, monopoliser l'attention avec des commentaires de merde, en vrai? Putain, pense un peu aux autres, quoi, c'est fou ça. Ah là 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 là, vous êtes vraiment pas beaucoup, mais c'est fou, hein. C'est comme sur les réseaux sociaux, ça. En fait, c'est des minorités de gens qui, en fait, qui sont toxiques et qui. C'est comme dans les games de Valo. 90% des joueurs de Valo sont des gens tout à fait normaux, qui s'expriment correctement. Et t'as toujours des fous du bus, là, qui viennent te niquer des parties, quoi. C'est les mêmes, vous êtes les mêmes, les gars. On veut pas de vous, en fait. Arrêtez de tout polluer comme ça. C'est dingue, hein. Faites des efforts, quoi. Sur Valo, c'est 20%, arrête de mentir. Non! Non, non, non. On continue. Troisième sujet de consensus, les algorithmes de la quasi-totalité des grandes plateformes conçues pour capter l'attention, les algorithmes, très important, entretiennent le mal-être des jeunes déjà fragiles psychiquement. Il est super bien fait le dossier en vrai. Voire les entraînent dans les spirales mortifères. Un rapport d'Amnesty, publié en novembre 2023, pardon pour les petites sautes d'images, montre comment un jeune souffrant d'anxiété peut se retrouver inondé de vidéos normalisant les troubles alimentaires. Hein, parce qu'en fait, comme il va consommer des vidéos, l'algorithme va lui en proposer plus. L'automutilation, voire le suicide. Les filles de moins de 15 ans qui présentent une plus grande vulnérabilité psychique pardon, que les garçons au même âge et qui passent plus de temps qu'eux sur les plateformes sont un public particulièrement à risque. Et si on diminue l'usage des réseaux sociaux, que se passe-t-il ? Plusieurs études expérimentales de sevrage récent montrent qu'après une ou deux semaines seulement, une diminution des symptômes de troubles alimentaires, une amélioration du bien-être émotionnel. La seule abstinence numérique s'avère toutefois bien moins efficace selon ces études qu'un suivi thérapeutique. Mais bien ce dossier. Donc, le dossier, il dit, il y a un mal-être qui s'est installé chez les jeunes, chez les ados français. Voilà. On ne sait pas si c'est les réseaux sociaux qui en sont principalement responsables, mais il est sûr que les réseaux sociaux, les scientifiques sont d'accord là-dessus, jouent un rôle. Alors, la France, par la voix du président Macron, veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et La Croix nous dit que l'Europe, c'est dans La Croix, Nanjou, c'est le dossier de La Croix aujourd'hui. L'Europe est sceptique à l'idée d'interdire ces plateformes pour les jeunes. Plusieurs pays, dont la France, pressent l'Union européenne d'agir, donc. Bruxelles renvoie vers les États, mais s'apprête à proposer une application pour vérifier l'âge d'un internaute. Ouais, c'est vrai. Anaïs, bonjour, je suis désolé, c'est un sujet de mon mémoire, donc je suis obligé d'en parler. Je travaille sur un projet intergénérationnel pour la fin de mon mémoire. Lors de cette année, j'ai trouvé une recherche qui disait que le fait de parler à ses grands-parents, donc connaître l'histoire de sa famille, aide à avoir une plus grande estime de soi. En gros, pour faire court, que si on a un lien bien ancré avec notre famille, ça nous aide à être bien dans notre peau. Alors, qui de l'œuf et de la poule ? Parce que, Anaïs, tout le monde va être d'accord avec toi, mais encore faut-il que, un, tu aies une famille, deux, que tu aies des grands-parents, par exemple, et qu'ils ne soient pas partis très tôt, trois, que ce soit une famille aimante et pas une famille problématique, hein ? Quatre, que tu t'entendes bien avec eux, voilà. Donc, est-ce que c'est parce que tu as des grands-parents cool que, que ça participe à ton bien-être ? Plutôt que, est-ce que c'est malgré l'absence de relations avec tes grands-parents qui peut-être sont pas cool ou n'existent pas, que tu es dans le mal-être ? Quid de l'œuf et de la poule ? Mais bien sûr, de toute façon, plus le maillage familial est important et de qualité, corrélation, causalité, et de qualité, hein ? Voilà, ma grand-mère était une peau de vache et je suis pas certain que ça ait aidé, me dit Yann. Voilà. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs très différents de moi, mais que j'aime beaucoup. Et on s'entend très très bien ensemble. D'avoir eu des parents aimants. Mes grands-parents, je les ai très très peu connus, donc il n'y avait pas de lien à ce niveau-là. Mais je vois que mes enfants à moi ont des liens très forts avec leurs grands-parents, notamment côté maternel, parce que ce sont des gens de qualité tout simplement, et ce sont des formidables grands-pères et grands-mères. Donc là, oui, c'est formidable. Et je vois que ça participe à leur bien-être psychologique d'avoir des grands-parents comme ça, cool. Mais parce que ce sont des grands-parents cool, parce que ce sont des chouettes grands-parents, des grands-parents aimants, des grands-parents qui arrivent à remettre en question leur propre grille de valeurs par rapport à ce qu'ils ont dû apprendre eux. Voilà. Et toutes les familles ne vivent pas ça. Continuons. Alors l'Europe est sceptique. Wesh, tu streams le matin et le soir, réponse-toi tonton, vous êtes trop gentil. Alors, la Commission européenne devrait dévoiler fin juillet une application permettant de vérifier l'âge d'un utilisateur de services numériques tout en protégeant ses données personnelles. Ce sera une sorte de mini portefeuille numérique. Ah, excusez-moi, message de mon épouse. Non, excusez-moi, je raconte ma vie. Je suis passé chez le dentiste ce matin, virgule, tout va bien. Virgule, mes dents sont en pleine forme. Point. Et après la revue de presse, je vais chez l'ophtalmo. Point. Et toi, comment se passe ta journée ? Point d'exclamation. D'interrogation. Je digue des petits SMS. Je fais pas des vocaux, je digue des SMS. C'est les vieux, ça. Attends. Je mets des petits points d'interrogation qui manquent. Mais non, c'est en pleine forme, c'est vrai. Ça faisait 2 ans que je t'ai pas allé, putain. Des tartrages, quoi. Mais je suis devenu un maniaque des dents. J'ai 2 brosses à dents électriques différentes, parce qu'elles ne brossent pas pareil. Et après. Voilà. Avant, j'étais pas comme ça, mais je suis devenu un maniaque des dents. C'est important, les dents. Notamment parce que j'ai vu des personnes âgées qui, en fait, les problèmes des dents, quand tu t'en occupes pas. Pardon, je fais une parenthèse. Les dents, quand tu t'en occupes pas bien au cours de ta vie, enfant, ado, adulte, etc., tu payes le truc plus tard, là. Après, tes chicots, ils partent en sucette, hein, quand t'es vieux. Donc, moi, c'est en observant ça que, du coup, je suis devenu maniaque des dents, en fait. Donc, soignez vos dents, parce qu'après, c'est là où on vous les enlève toutes, tu sais, après, là, ça part en sucette. Hein. Mon dentiste m'a dit qu'il fallait que je devienne un maniaque des dents, mais il a raison. Je continue. Donc, une application permettant de vérifier l'âge de l'utilisateur de services numériques. En juillet, la Commission européenne publiera aussi les lignes directrices pour le règlement sur les services numériques, le fameux DSA, adopté en 2022, équivalent des décrets d'application qui visent à expliquer aux grandes plateformes leurs obligations nouvelles dans l'espace européen. Le DSA, en vrai, c'est plutôt pas mal, quoi. Et le DSA prévoit en particulier un devoir de protéger les mineurs. Avec ces deux mesures, la Commission européenne espère satisfaire les États membres, mais pas sûr qu'elle y arrive, puisqu'un groupe d'États, dont la France, demande des mesures plus sévères pour protéger les ados des contenus toxiques sur Internet. La France souhaite l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, une proposition soutenue par la Grèce, par l'Espagne, par l'Irlande, par le Danemark, par la Belgique. Alors effectivement, comme certains disaient dans le chat tout à l'heure, et vous aviez raison, merci, n'impuissant 666, c'est un plaisir. Dis-moi l'abonnement. La loi a déjà voté une loi instaurant une majorité numérique à 15 ans. Elle a été promulguée en 2023, en juillet, mais elle n'est pas appliquée dans l'attente des mesures européennes. Mais... Alors, en Australie, ils ont déjà ça. Ils ont voté une interdiction pour les moins de 16 ans qui doit entrer en vigueur en novembre 2025. Pour autant, l'interdiction aux plus jeunes n'est pas la solution privilégiée par la Commission européenne. Voilà. Mais la Commission explique que c'est la compétence des États membres de fixer une majorité numérique s'ils le souhaitent. Okay. Sans nier le besoin de protéger les mineurs surexposés à des contenus violents ou toxiques, la Commission souhaite plutôt fixer des obligations strictes aux plateformes. Celle-ci devrait avoir l'obligation de repérer qui est mineur, sous peine de sanction, et de filtrer les contenus auxquels ils ont accès. La Commission rappelle avoir déjà ouvert une enquête contre certains géants du numérique, comme TikTok et Meta, pour non-respect de la vie privée des mineurs. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure, et je pense que vous avez raison, après, il y a la mise en œuvre technique de tout ça qui est très compliquée. L'interdiction stricte, en effet, pose des problèmes de mise en œuvre. Il existe de nombreux moyens techniques de contournement. Elle est également... D'ailleurs, il faut que je vous parle d'une sponsor VPN. Non, c'est pas vrai. Elle est également mal vue des pays du Nord, plus attachés à la liberté individuelle. À cela, les pays du Sud répondent que certes, l'interdiction est complexe à mettre en œuvre, mais que l'option consistant à faire confiance aux géants du numérique pour protéger les mineurs n'a pas non plus donné beaucoup de réponses à ce jour. Voilà. Alors quelqu'un me disait, et toi Samuel, tes enfants, t'en penses quoi? Bah, j'en pense que je suis inquiet, comme tous les parents, que quand je vois les dingueries qui tombent sur mon téléphone portable, alors que vous savez quel saint je suis... S-I-N-T, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Donc, chez nous, les téléphones traînent pas. On ne laisse jamais un téléphone ou une tablette reliée à Internet dans les mains d'un enfant. Ils ont des petites tablettes pour jouer un peu aux jeux vidéo de façon encadrée et contrôlée, pour accéder, par exemple, Solal, 5 ans, il adore dessiner. Il va chercher des modèles sur Internet. Donc, il a YouTube Kids. Et Hélène a mis en place toute une batterie de trucs pour contrôler la durée d'utilisation de la tablette, etc. Et le fait qu'ils peuvent pas aller, quoi. Mais sauf que, bon, on sent que certains petits copains à l'école, mes enfants ont 5 et 8 ans. Oh, tu casses les couilles. Bruna, je ne sais plus quoi te dire. On sent que certains ont un accès un peu libre à Internet parce que parfois dans les mots qui reviennent à la maison, merci Moulbit. Dans les mots qui reviennent à la maison, t'as des mots qui clairement sont pas dits chez nous et pas sur les supports qu'ils consomment, quoi. Donc là, bon, bah c'est normal, ça les fait marrer, mais bon, c'est toujours ennuyeux, quoi. Mais enfin, on a connu ça, on a connu ça aussi nous enfants, quoi. Ok, merci Alexandra, c'est adorable. Je comptais pas le faire. Le laser pour les yeux, c'est adorable. Merci beaucoup, c'est gentil de te soucier. J'ai un élève qui a été traumatisé par une vidéo qu'on lui a montrée. Il peut plus approcher un tel, me dit Lav. Moi, je suis très inquiet de ça, moi. Alors, certains me disent attention à YouTube Kids, il y a aussi des dingueries. C'est vrai, ça? Ça, je vais en parler avec Hélène. C'est pas safe du tout? Ah merde. Non, non, j'ai pas prévu de me faire opérer les yeux. C'est quelqu'un qui s'inquiétait que je le fasse. Non, non, moi je suis très bien, j'ai des lentilles, ça me va bien. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à mettre mes premières lentilles. Donc j'en porte depuis 40 ans. Journalistiquement, qu'est-ce que tu penses de Hugo Décrypte? Que c'est un bon. Il y a des dingueries? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ah, j'ai limité le kids à 2 ans pour ma fille, de 5 pour limiter les dingueries. Ah ouais? Ah bon? Ok. Le mieux, ouais, elle a raison. Oldwell, j'ai un fils de 10 ans et pour l'instant, je suis toujours derrière lui quand il est sur un écran. Une des choses que doivent faire les parents, c'est les enfants quand ils sont petits, là. En fait, il faut pas les laisser seuls avec un écran, quoi. Quand un enfant, nous, quand on laisse l'accès à l'enfant à la tablette pour jouer aux jeux vidéo, regarder des dessins animés ou faire une recherche pour un dessin, on essaye d'être à côté de lui, quoi. Je dis bien, on essaye, hein, parce que parfois, la vie d'un parent, c'est beaucoup d'efforts, mais parfois des échecs aussi. Alors samedi. Samedi, virgule, je suis en question pour un champion, virgule, exceptionnellement, pour l'exclamation. Pour la première fois en 10 ans de question pour un champion, je tourne samedi là. Bye bye bye. Bon, voilà pour les écrans. Oui, c'est un énorme leak. Il faut être 8 parents pour être toujours d'inquiète, t'inquiète pas. Ouais, bah oui, c'est vrai que comment. Ok. Je me souviendrai toujours avoir attrapé ma sœur à regarder une animation à caractère sexuel dans Minecraft et avoir passé du temps à lui reprocher alors qu'elle avait 8 ans. À lui expliquer alors qu'elle avait 8 ans. Ah bah Minecraft, j'ai toujours dit moi. Non, Minecraft, non. Trop violent Minecraft. Toujours dit ça. Jamais, jamais vous verrez du stream de Minecraft là. J'espère que t'es mieux payé ailleurs. Alors non, c'est le même prix, c'est le même prix. C'est le même prix. Jamais vous ne verrez du Minecraft sur cette chaîne. Hein. Très bien, Minecraft. Ah, Valorant, oui. Bon, attends, je dis, ça va, il nous reste une petite demi-heure encore. Ok. On va finir avec. Oh, vite, vite. C'est marrant, ça, le droit au sommeil, là. C'est marrant, ça. Alors, c'est un gars qui lance un appel pour le droit au sommeil. Alors, vous bloquez pas sur droit au sommeil, parce qu'il y a encore les mecs qui vont râler. Oui, il y a un droit pour tout maintenant, et pourquoi pas un droit au sommeil, pourquoi pas un droit au coton-tige, pourquoi pas un droit aux artichauts. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est le fait que voilà, le sommeil est en danger dans nos sociétés. Voilà. Libération, page 20. Let's go. C'est... Ouais, oui, c'est peut-être pour moi. À quand un droit au sommeil ? Cette photo est atroce. Excusez-moi, pardon, Libération. Mais normalement, vous êtes très bon pour l'iconographie. Là, on voit des oreillers d'un blanc douteux, avec une masse de cheveux, pas de visage. Ça pourrait être un animal. On ne sait pas ce que c'est. Désolé, mais là, vous me stressez là. Hein ? Ouais, ça pourrait être une perruque, ouais. Ça, je me demande même s'il y a quelqu'un là. Voilà. Ça me stresse. À quand un droit au sommeil ? Devenu rare, dévalorisé, marchandisé, le sommeil constitue, selon Paul Klotz, qui est un expert associé à la Fondation Jean Jaurès, un enjeu d'action publique. La convention citoyenne annoncée par le président de la République sur le temps de l'école pourrait constituer un cadre pour porter des propositions. Nous dormons de moins en moins. Ça, c'est un constat. Et de plus en plus mal. Pas bien dormi cette nuit, moi. C'est pour ça que je fais des petites EO ce matin. Un petit peu. En 50 ans, nous avons perdu plus d'1h30 de sommeil quotidien. En 50 ans, on a perdu plus d'1h30 de sommeil quotidien. Cette lente érosion, pourtant silencieuse, est lourde de conséquences. Troubles de l'humeur, état dépressif, baisse de concentration. Streamers qui font des time-out, des TO, des bans pour un oui, pour un non. C'est écrit dans l'article de Libération. Inégalité sanitaire croissante. Voici les principaux symptômes. Et pourtant, aucun grand discours politique, aucun texte législatif ou réglementaire ne se saisit pleinement de ce sujet. Tout au plus est-il évoqué au détour de réglementation sur le bruit nocturne ou via la question du repos dans le droit au travail. Dans le droit du travail. Mais sa place dans l'existence humaine est traitée comme secondaire, voire accessoire. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du sommeil, finalement. Cette indifférence est révélatrice dans l'ordre marchand, dormir est une activité sans valeur et sans rendement. Comme le note Jonathan Crary dans 24/7, je sais pas quoi, le capitalisme à l'assaut du sommeil, 24/7, je pense, passer ainsi une immense partie de votre vie endormie demeure l'un des plus grands affronts que les êtres humains puissent faire à la voracité du capitalisme contemporain. Intéressant. Dormir, bien dormir, quelque part, c'est faire un affront à la voracité du capitalisme contemporain. Eh bien, dormons, les amis. Eh bien, dormons. Les acteurs économiques du capitalisme numérique s'y sont pas trompés. Faire de la nuit un temps productif est devenu l'un des objectifs implicites. Ah, c'est la version anglo-saxonne de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Thank you, John. Je savais pas ça. Là, j'ai appris un truc. Des algorithmes producteurs d'addiction aux plateformes de streaming, tout est conçu pour conquérir l'attention et rogner sur le temps de repos. Résultat, le sommeil devient un luxe réservé à ceux qui peuvent encore se l'offrir. Car les inégalités de sommeil suivent et décuplent les inégalités économiques. Les plus précaires dorment moins que les plus aisés. Les enfants d'ouvriers dorment moins que ceux des cadres. Selon Santé publique France, les personnes en difficulté financière dorment 20 minutes de moins que la moyenne, tandis qu'en grande section de maternelle, les enfants d'ouvriers dorment 10 minutes de moins que ceux des cadres. Ces écarts, loin d'être anecdotiques, traduisent une violence sociale diffuse dont les effets se prolongent tout au long de la vie. C'est dommage qu'on nous explique pas un peu ces chiffres-là. Ça manque un peu, je pense. Bon, voilà, le gars, on lui a dit, t'as une page, pas plus. Mais là, on est d'accord qu'on aimerait comprendre tout ça. Hein, pour le lien entre classe sociale et manque de sommeil, quoi. Bon, il y a sûrement les études scientifiques là-dessus. Peut-être parce qu'ils habitent moins proche du centre, parce que peut-être qu'il y a plus de déplacements. C'est ce que je me suis dit, Nawal Paris notamment. Ouais. Les horaires de travail, les temps de trajet, l'exposition peut-être aux écrans mal contrôlés aussi, peut-être. Ouais. C'est ça, ouais. Transport, déplacement, je pense que ça doit jouer tout à fait. Et oui. Eric me dit, oui, j'imagine, plus t'as d'argent, plus t'as les moyens d'avoir un logement bien placé, proche de l'école, bien sûr. Le travail qui débute plus tôt, mais oui, ça doit être ça. Ouais. Et oui, la nounou, plus facile de quand t'es aidé par une nounou, d'organiser la vie familiale, notamment l'heure du coucher, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, quand on doit faire 4 heures de trajet par jour, qu'on cumule les petits boulots, salut Yume, pas de chambre pour les enfants, etc. Et oui, ok. Or, à mesure que le temps de sommeil recule dans la vie des individus, bravo le chat pour les explications, c'est cool. L'existence entière se reconfigure et s'abîme. Le retrait du repos signifie aussi le recul des sociabilités intimes. La présence des écrans dans la chambre à coucher a fait du téléphone un tiers intrusif dans l'espace du couple. En 2019, un quart des Américains préféreraient regarder Netflix plutôt que faire l'amour. Quoi ? En 2019, un quart des Américains préféraient regarder Netflix plutôt que faire l'amour. Mais supprimons Netflix ! Et pourquoi pas les deux, comment ça ? En même temps ? Mais je dis moi solennellement, je le dis, supprimons Netflix. Comment il avait dit le président Macron, là, il voulait relancer la natalité, il disait le grand quoi, il disait ? Puisqu'il avait inventé là comme mot. Le grand quoi ? Il voulait booster la natalité, là. Le réarmement démographique. Merci. Non, pas le grand bond d'avant, bordel, on n'est pas en Chine. Le réarmement démographique. Supprimons Netflix. T'as des gars qui préfèrent regarder une série que... C'est fou, ça. C'est fou, ça. Le chiffre atteint même 36% chez les 18-38 ans. Rien n'est pourtant plus politique que le sommeil dont la durée représente un tiers de la vie humaine. Il est donc temps, plus que jamais, d'en faire un enjeu d'action publique. Il convient d'abord de reconnaître le sommeil comme un droit, à l'égal du droit à la santé ou du droit à la vie privée. En effet, les règles constitutionnelles protègent déjà les besoins physiologiques, psychiques les plus essentiels, la liberté de mouvement, le respect de la vie privée ou encore l'interdiction des traitements inhumains. Pourquoi pas le sommeil ? Comment ça, dans Netflix, tu choisis le programme ? Ah oui. Oui, mais alors ? C'est fou, ça. Constitutionnaliser un tel droit permettrait d'offrir un fondement nouveau à des politiques publiques de protection du repos, renforçant notamment le droit des salariés, en consolidant les recours contre les nuisances nocturnes, ou en opposant un principe supérieur à certaines dérives technologiques, particulièrement les mécanismes d'addiction qui affectent les enfants utilisant les écrans. Il conviendrait ensuite de doter les pouvoirs publics d'outils normatifs pour garantir les rythmes scolaires, professionnels compatibles avec le repos. Les horaires scolaires français sont parmi les plus lourds de l'OCDE. Une réflexion pourrait être menée sur un aménagement. Tiens, on va faire un sondage sur les heures de sommeil, sur vos heures de sommeil, tiens. Je vais faire le sondage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sondage. Une réflexion pourrait être menée sur un aménagement du calendrier en réduisant légèrement les vacances pour démarrer les cours plus tard. La convention citoyenne annoncée par le président sur les temps de l'école pourrait constituer un cadre pour porter ces propositions. Ok, c'est intéressant. Dit-il en bâillant. Alors, sondage, je m'en occupe. Ça, c'est mon petit bol qui me permet de porter ma tablette pour que je baisse pas trop la tête. Vous saurez tout. Alors, ça dort combien ? Alors, sondage, let's go. Vous dormez, nouveau sondage. Je mets 2 points. Oh, ta gueule, le clavier. Je mets plus de 9 heures. Je vais mettre entre 7 heures... et 8h59. Voilà. Entre 5h et 6h59. Entre 3h et 4h59. Ok. Moins 2-3 heures. Bande de malades. Ok, c'est parti. Pas mal, hein. Vous dormez plus de 9 heures. Entre 7h et 8h59. Entre 7 et 9, quoi. Entre 5h et 6h59. Non, mais en moyenne, c'est variable. Bordel. Entre 3h et 4h59. Et moins de 3 heures. C'est parti. Vous avez 2 minutes.
Intéressant, hein?
Non, mais en moyenne. En semaine. Virez le week-end. Virez-moi le week-end. Le week-end, on dort tous plus. Ok? Si vous faites des siestes, vous rajoutez la sieste à la durée de votre sommeil quotidien, bien sûr. Hein? Plus une heure de sieste, tu rajoutes une heure à ton chiffre. Et on compte les jours fériés aussi? Ouais, et puis les pleines lunes aussi, ouais. Ouais. Et puis aussi, quand Mars se couche en Pluton, si tu peux compter ça aussi. Merci, Gara, pour le Prime. Et puis les grandes marées. Mais les équinoxes aussi. Mets tout. Ouais, vendredi 13 aussi, ouais. Tout. Un hémisextile, tu comptes tout. Voyons. Alors, les plus de 9 heures, il y a quand même 5%. Il y a quand même 40 personnes qui dorment plus de 9 heures. Je pense que c'est des besoins physiologiques aussi. On est tous inégaux par rapport à nos besoins de sommeil. Oui, Erendi le rappelle, le coma ne compte pas. Si vous êtes en coma, ça ne marche pas. Entre 7h et 8h59, c'est la plus grande partie. Hein. Entre 7 et 9 heures, quoi, vous êtes 48%. C'est bien. Ça dort, c'est bien. Entre 5h et 7h, on va dire, bah, vous êtes 42%. Donc, on a 90% d'entre vous. Vous dormez entre 5h et 9h. Donc, c'est plutôt OK, je trouve. Entre 3h et 5h, vous n'êtes que 4%. Alors là, je pensais qu'il y en aurait plus. Entre 3h et 5h, vous n'êtes que 4%. Donc, pour le coup, moi, je suis dans cette zone-là. Et moins de 3h, il y a 6 personnes dans le chat quand même qui dorment moins de 3h. Voilà. Ça pompe it up toute la nuit. Voilà. C'est bien. Alors là, en vrai, c'est bravo. Je trouve que globalement, vous avez une bonne hygiène de sommeil, quoi. Non, j'ai pas les prouveurs, on respecte. Attends, c'est bon, il y a peut-être des moins dormeurs, quoi. Ça dépend aussi, c'est chacun sa route, chacun son chemin, comme chantait le philosophe Tonton David. Après, c'est comme les performances sexuelles, si ça se trouve, les gens se surévaluent. Je n'irai pas sur ce terrain. Et toi? Bah, 5 heures, je suis bien. Avant, je dormais. Bah, de toute façon, j'avais pas le choix. Avant, quand je travaillais à France Info, le réveil sonnait à 2h du mat. J'essayais d'avoir des soirées quand même en famille. Je dormais 3h. 3h la plupart du temps. Et quand j'avais de la chance, j'arrivais à faire une sieste l'après-midi d'1 heure, 1 heure et demie, mais pas toujours, quoi. Donc, parfois, il y avait vraiment 3h sur 24 heures. Et voilà. Ça s'appliquait un peu. Et depuis que j'ai arrêté France Info, j'essaie d'avoir 5 heures. Alors ça, parfois un peu moins, mais j'aime plus. Les 3 heures, je veux plus. C'est un truc. C'est pour ça que j'ai arrêté France Info. Parce que c'est pas bon pour la santé. Donc 5 heures, ça va. Voilà. 6-7 heures, ça, c'est le week-end. Ça, c'est fiesta, ça. C'était, ouais, c'est lambada, quoi. C'est le jour de lambada. As-tu un avant et un après France Info en termes de sommeil? Ah bah oui, bah, j'ai rajouté 2 heures de sommeil, quoi. Je suis passé de 3 à 5 heures, quoi, minimum. Ouais. Ah bah, j'avais plus de doute. Hein. J'avais pas le choix. Hein. À la fin, j'avais des vertiges à France Info, quoi. Parfois, on était debout pour présenter les infos. Il fallait que je me tienne à une table. Non, là, je me suis dit, c'était dans les 2 dernières années. Je me suis dit, bon, on va dire que c'est la dernière, quoi. Ça, c'était à un moment, le corps te dit, bon, t'es gentil, quoi. Je l'ai fait quoi, 5-6 ans, quoi. Et puis, j'avais fait ça sur d'autres radios, d'autres télés avant aussi, quoi. Donc, non, ça n'est pas excellent. Merci, Tibet. Cœur sur toi, mon ami. Bon! Merci, Xnolken. T'avais le temps de quoi? J'ai oublié les questions. Hein? Ça va pas aux douillettes de porc, non? On ne remarquait pas aux matinées. Bah oui, mais c'est parce que je me tenais très fort à la table. Ouais, les matinales de repas aussi, parce que là, c'était le petit matin, le 5-7. Oh, je me levais ouais, à 1h30 du coup. Ouais, mais bon. Parce que oui, avant, il y a eu repas. Fais une nuit de 8 heures par an pour le kiff, Sam, juste pour voir. Ah bah non, c'est pas possible, parce qu'il y a les enfants qui. Les enfants, ils veulent pas que tu dormes 8 heures. Les enfants, les parents, vous savez ça. Les parents, les enfants, ils veulent pas. Les enfants, ils veulent pas. Et toi, tu veux, mais eux, ils veulent pas. Ils veulent que tu ailles dessiner, jouer à je sais pas quoi, faire le petit-déj. Enfin, ils ont une vie, quoi. C'est marrant parce que les mêmes enfants qui veulent pas se lever en semaine, et le week-end, ils se lèvent tout seuls comme des petits. Comme ça. Incroyable. C'est marrant, ça. Jamais compris ça. Comme par hasard. Hein? Tous les parents savent ça. C'est étrange. Le week-end, là en semaine, ça veut pas se lever. Et le week-end, ça pop comme ça. Voilà, à 7h, pop, 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 pop. Alors qu'en semaine, à 7h30, 8h, personne ne veut se lever. Puis au week-end, c'est pop, 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 pop. Voilà, puis ça se lève discrètement. Hein. Ça se lève très discrètement. Hein. Très, très, très. Bon, allez, prenons des nouvelles pour terminer de notre amie. En tout cas, c'est mon amie, je l'aime beaucoup. Anne-Sophie Lapix. Ex-présentatrice du 20h de France 2 qui a été remerciée donc à ce poste et qui a donc décidé de partir sur M6 et de quitter France Télévisions. C'est une perte pour France Télévisions. Grande journaliste, très belle personne, Anne-Sophie. Au revoir Anne-Sophie. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. La Pix intègre le groupe M6. Article de Benoît d'Aragon, page 27 dans Le Parisien ce matin. Évincée du journal de France 2, la journaliste a été débauchée par le groupe M6. Elle va donc animer la tranche 18h-20h sur RTL, qui est une tranche, une très belle tranche, très exposée, et conduira un entretien dominical sur la 6. Anne-Sophie Lapix claque la porte 3 semaines après s'être vue retirer les rênes du 20h de France 2. La journée de 53 ans a posé ce lundi matin sa démission sur le bureau de Delphine Arnault, la PDG de France Télévisions. Sans traîner, le groupe M6 a annoncé dans un communiqué recruter la future ex-star du JT pour sa station RTL et sa chaîne de télévision. Un retour aux sources pour celle qui a présenté Zone Interdite il y a une vingtaine d'années sur M6. Et ce sera la première expérience en radio. Un pot de départ le 26 juin. Tu es tellement aigri, la carotte aigrie. Tu es tellement aigri. Continuons. La semaine dernière, la présentatrice a signé pour remplacer Yves Calvi aux manettes de RTL Soir, le 18-20h donc. Voilà. Selon les informations, Yves Calvi, il va faire autre chose. Ils t'ont pas invité? Où ça? Kate Bright. Où ça? À l'apéro? Mais. Où ça? Où ça? RTL? Hein? Anne-Sophie Lapix sera également sur la chaîne M6 où elle proposera chaque semaine un grand entretien avec une personne qui fait l'actualité dans un magazine dominical. Ok. Ok, donc une hebdo sur M6. Et RTL en quotidienne. Les gens qui écrivent Un vin moussin avec Hanouna? Non. Alors, dans quel monde Anne-Sophie Lapix va avoir envie de travailler avec Hanouna? Vous arrêtez de raconter des conneries dans le chat, là, 2 secondes, vous pouvez faire un effort? C'est fou ça. Elle prendra aussi les commandes de prime time événementiel consacré aux grands sujets politiques, sociétaux et d'actualité qui vont être diffusés pendant la campagne présidentielle de 2007. Juste avant ce recrutement que personne n'a vu venir, la présentatrice avait annoncé à la rédaction de France 2 qu'elle présenterait finalement son dernier journal sur la 2 le jeudi 26 juin. Elle a également indiqué à toute son équipe de journalistes qu'elle organiserait dans la foulée un grand pot d'adieu. Ah tiens, il y a peut-être un petit coup à boire là, c'est quand ça? Le 26 juin. Un petit verre gratuit. Ah, je peux pas. Je suis en tournage. Merde. J'aurais pu ramener des trucs à la maison. Parfois, il y a des petites cacahuètes, tout ça. C'est pas tout manger, tu peux en ramener après. Elle a également indiqué à toute son équipe de journalistes qu'elle. Bon, le pot d'adieu, j'en ai parlé. Un départ anticipé, puisque la direction de France Télévisions espérait qu'Anne-Sophie Lapix reste aux manettes de son JT jusqu'à la trêve estivale du 10 juillet pour passer le relais à son joker, Julien Arnault. Cette arrivée sur la 6 est la conséquence directe de son éviction du 20h. Mardi 27 mai, la direction de France Télévisions, dans un communiqué transmis à l'AFP, officialisait la fin de règne d'Anne-Sophie Lapix, transfuge de France 5 en 2017, après 8 saisons, c'est beaucoup, hein, 8 saisons de JT, hein, 8 années à la tête du 20h. C'est un poste très exposé, très compliqué, très, où tu es toujours très critiqué. C'est beaucoup, 8 ans. Intense son actualité et en passe d'armes avec différentes personnalités politiques. Le groupe n'a pas expliqué officiellement les raisons de ce choix. Les gens qui me disent « Mais pourquoi Anne-Sophie Lapix a été remerciée de France 2 ?» Je ne sais pas. Le groupe n'a pas donné de raison. Voilà. On peut juste imaginer. Voilà. Évoquant seulement vouloir donner un second souffle. Donc ça, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, un second souffle ? Quelqu'un qui respire plus fort, peut-être ? Quelqu'un qui a plus de capacité respiratoire, peut-être ? Voilà. À ces éditions en perte de vitesse côté audience. Bon, ça c'est pas vraiment vrai. Le 20h de France 2 a toujours été derrière le 20h de TF1. Ils ont jamais réussi à passer devant, quoi. France Télévisions avait aussi fait savoir qu'il espérait conserver Anne-Sophie Lapix dans ses rangs pour la saison prochaine. Bon, ça c'est raté, ça. Anne-Sophie Lapix ne s'est pas exprimée non plus. C'est quelqu'un qui est très discret. Anne-Sophie Lapix, c'est pas quelqu'un qui s'épanche sur les réseaux. Mais ce départ fracassant, bon, elle part un petit peu vite, donne un indice sur son état d'esprit actuel. Coquinou les Parisiens. En coulisses, RTL a approché la présentatrice dès l'annonce de son éviction du JT. Joli coup pour le groupe M6 qui, avec l'arrivée de Cyril Hanouna, d'Olivier Vine, mais aussi de Marc-Olivier Fogiel, est décidément très offensif durant ce mercato officiel. Voilà. Bon. On va pas y passer 2 heures, c'est de l'actualité média, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais bon, c'est quand même un visage emblématique de l'information en France. Elle a tenu 8 ans le 20h de France 2, ce qui est vraiment pas mal, parce que c'est des postes qui sont vraiment très compliqués, quoi. Comment ça, Anouna sur M6 ? Oui, je crois. Je suis un peu perdu, je vous avoue. C'est cool qu'elle ait trouvé aussitôt. Bon, en même temps, c'est pas une énorme surprise. C'est vraiment une très bonne journaliste, quoi. Ah, dans le groupe M6, c'est pas M6 pour le moment, me dit-on pour Hanouna. D'accord. C'est W9. D'accord. Huit ans, mais elle présentait C'est à vous il n'y a pas si longtemps que ça ? Ben, 8 ans. Je vous lis. Hein. C'est quoi qui rend ce poste compliqué à part l'exposition ? Bah en fait, c'est d'abord, tu es sous le regard permanent de ta rédaction, de tes propres journalistes, Dretas. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, quand tu es la présentatrice d'un journal comme ça, tu es la vitrine du travail de toute une rédaction. Et cette rédaction, elle a une idée aussi de comment doit être présenté le journal, finalement. Donc parfois, tu es d'abord critiqué par ta propre rédaction. Et plus le journal il est important, exposé en termes d'audience, ben plus la pression elle est forte, quoi. Donc il y a la pression de ta propre rédaction, il y a la pression de ta direction, voilà. Il y a la pression des politiques qui peuvent t'apprécier ou pas. Donc tout le monde sait que Anne-Sophie Lapix n'était pas beaucoup aimée des politiques. Alors, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être parce qu'elle était une bonne intervieweuse. Certains disent qu'elle était un petit peu insolente. Moi je trouve ça plutôt cool, en vrai. Voilà. Donc c'est des journaux, c'est des postes très compliqués. C'est des postes très compliqués. Elle choisissait les sujets, leur traitement ? Non, c'est un travail collectif, ça. En fait, dans une chaîne comme France 2, tu vas avoir un directeur de l'information, tu vas avoir un rédacteur en chef du journal, tu vas avoir le présentateur qui lui-même, souvent, passé un certain âge, est rédacteur en chef lui aussi. Moi, j'étais à France Info, j'étais présentateur de la matinale et j'étais rédacteur en chef. Et donc, en fait, et après, tu as les chefs de service, société, économie, culture, etc., sport, et les journalistes. Et lors de grands moments qui animent la vie d'une rédaction comme celle-ci, tu as des conférences de rédaction où tout le monde donne un petit peu son avis et à un moment, bon, non, il faut trancher. Hein, et là, c'est plutôt le rédacteur en chef du journal qui tranche, quoi. Voilà, mais c'est un travail collectif. Le présentateur du JT est-il le chef de la rédaction ou pas forcément? Y a-t-il un nouveau hiérarchique de plus sur le présentateur? Bah, ça dépend des organisations. À TF1, par exemple, il est dit que le présentateur peut avoir une influence vraiment très forte sur le contenu du journal. Jean-Pierre Pernaut, par exemple, était assez présent dans le choix éditorial de son journal. Voilà, mais en n'étant pas seul, malgré tout. PPDA à l'époque, peut-être aussi. Je pense que dans le service public, peut-être un peu moins. Puis ça dépend, mais ça dépend beaucoup des individus, quoi. Ça dépend beaucoup des individus. Ça dépend aussi du goût aussi, du présentateur pour le s'impliquer ou pas dans les choix éditoriaux, quoi. Quand tu travaillais à France Info, est-ce qu'on te disait clairement comment politiquement traiter une info? Non, bien sûr, ni à mort, sinon je n'aurais jamais travaillé à France Info. Est-ce que c'est Roux qui reprend le poste? Oui, on dit qu'on parle beaucoup d'elle, ça n'est pas officiel, Caroline Roux, oui. Même si on dit qu'elle n'est pas intéressée par le poste, elle. Elle a fait visiter les plateaux à une de mes classes et à des collègues hyper sympas, apparemment, Anne-Sophie Lapix. Oui, là, elle l'est, beaucoup, très. Je suis dessus, je pensais qu'elle se mettrait au streaming. Je pense pas qu'Anne-Sophie va se mettre au streaming, like, je pense pas. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un de. Voilà. Je pense que le petit show auquel se livrent les streamers et les streameuses au quotidien, qui moi m'amuse beaucoup personnellement, parce que j'aime bien dire des bêtises, troller, et je pense que ça l'amuserait pas en fait. Faudrait que tu l'invites. Oui, c'est peut-être déjà fait. C'est peut-être déjà fait, mais peut-être qu'elle est trop discrète. h 51, je vous abandonne comme des vieilles chaussettes, puisque je vais maintenant chez l'opticien. Non, l'opticien. Non, l'ophtalmo, pardon. Après, le dentiste ce matin. Voilà. On fait le tour des médecins avant de partir en vacances. Mais je vous retrouve cet après-midi, dès le retour de l'ophtalmo. Je pense que je vais essayer de lancer un petit strip cet après-midi. Très discrète, ça paraît paradoxal quand tu es toujours à la télé. Oui, mais si tu réfléchis un petit peu, tu vas comprendre le principe. Et je vais essayer de, donc, je vais après l'ophtalmo, je vais essayer de lancer un petit stream Valo. Et je vous retrouve ce soir pour un petit stream, peut-être, comment qu'on dit là? Le jeu qu'on a fait dimanche là. La révision, exactement. Walking Dead. Ouais. Mais il faut que je télécharge. Ce soir. Je verrai si ça vous plaît. Piquant, ça met aujourd'hui. Ouais, non, mais ça va, à un moment, ça va. Je vieillis, donc maintenant les filtres, ils tombent. Ça va. Quand t'as 99% du chat qui se comporte correctement et 1% qui viennent troller, maintenant, je lâche les chevaux. Comme ça, on reste entre gens cool, quoi. Alors, qui on raid? Hein? Quand ça du coup? Bah là, je reviens vers 16h quoi. Je reviens vers 16h. Alors qui est en live là? Ouais. Ah, attendez.
Lionel Murphy pour ceux qui savent pas qui c'est.
Je l'aime bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas arrêté. Donc j'ai déjà une première idée, ok. Ah, en voici une deuxième. Putain, j'en ai plein. Ok. Ouais. Ok. Il y a tellement d'amis en live là, de gens cool. Bah. Ok. Ok. Mais écoutez, j'ai une petite envie, parce que c'est aussi un passionné d'information, moins sur l'actualité quotidienne, mais c'est un garçon qui fait des reportages, qui fait des docs, c'est un garçon que j'aime beaucoup. C'est Simon Puech qui est en live là. Et il parle notamment de l'Iran et d'Israël. Voilà, avec un autre regard que moi, parce qu'on est différents, mais on s'apprécie, malgré nos différences, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Let's go, Simon Puech. Let's go. contenu de qualité. Simon, qu'on a vu dans Ça me plaît cette saison, qu'on a vu dans MVP aussi, qui est un mec super. Hop, allons donner de la force à Simon. Il le mérite. Et je suis sûr que vous allez apprendre plein de trucs avec lui. À tout à l'heure pour se détendre sur Valo, à ce soir aussi pour du gaming. Merci pour ce matin et à demain matin également pour la revue de presse. On est des fadas ici, on est des fadas. Merci encore, à tout à l'heure. Ça part dans 5 secondes. Up and down again.
Danny Boyle, il est chaud.
Look at what's in front of you.
Demi-tour. Oh là, des inconnus. Attends, c'est des zombies qui ont gardé leurs caleçons. Oh là 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 là, calmez-vous, monsieur Étienne, calmez-vous enfin, mais que se passe-t-il ? On était en train de regarder le trailer d'un film qui sort demain, 28 ans.